Dans le Tempo, épisode 76. C'est parti. Bienvenue dans DLT, le podcast des passionnés de musique.
Oh là là,
quel plaisir. On se retrouve un mercredi sur deux.
Oui, quel plaisir.
Avec toujours des invités incroyables.
Toujours. Hein. Déjà, la semaine dernière, c'était gratiné.
Ouais.
Alors là.
Alors tu sais quoi? Justement, on disait dans le dernier épisode qu'on recevait des invités prestigieux. On a utilisé ce terme, Daz.
Ouais.
Et ben, il n'est pas galvaudé aujourd'hui.
Non, là, c'est officiellement, c'est valable.
C'est valable.
C'est
hein,
valable.
Puisque nous sommes avec Wally Badarou.
Bonjour, Wally.
Ça
Badarou.
Va, Wally? Dit comme ça, oui.
Prestigieux, ça te va?
Non.
Non.
La modestie, il est grand, bien sûr.
Non, mais c'est franchement pas une question de modestie, c'est une question d'honnêteté intellectuelle, je crois.
Oui.
Ouais. J'en parlais il y a pas longtemps encore avec une amie. La manière dont les choses nous arrivent est telle que, très honnêtement,
t'as pas fait grand chose en fait.
Ouais. Non, c'est pas ça. Non,
petite carrière.
Je dirais pas ça. Je dirais que ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, ceux qui savent exactement qu'ils font un plan de carrière et qui y arrivent selon le plan de carrière, là, chapeau.
Ouais.
J'en connais pas beaucoup.
Mmh.
Voilà.
Toi, t'étais là juste au bon moment, comme ça. Ça,
alors,
c'est.
J'irais pas jusqu'à dire que j'étais là au bon moment, mais je dirais simplement que les choses me sont arrivées avec énormément de chance. Il y a forcément trois facteurs, comme on le sait, toujours les mêmes, le travail, le talent et la chance. Mais moi, je dirais que la place réservée à la chance est à ce point importante que peut-être que le travail est peut-être plus, et le talent, sont peut-être plus à savoir cultiver la chance qu'autre chose.
Eh bien, écoute, prestigieux et modeste.
Ouais, j'aime beaucoup comment on démarre cette émission.
Ben oui, surtout que Wally, alors tu es à la fois musicien de session, claviériste, compositeur, je sais que ça tient à cœur parce que c'est vraiment le cœur de ton métier. Tu te vois avant tout comme un compositeur, producteur également, chanteur même, il me semble. C'est un truc qui te plaît de plus en plus de chanter, non?
Mais en réalité, j'ai commencé comme chanteur en signature, c'est-à-dire que j'ai mon premier contrat d'enregistrement était celui d'un chanteur.
Ah, je savais pas ça.
Barclay, les disques Barclay m'avaient signé en tant que chanteur.
Incroyable.
Donc mon tout premier album est un album de chanteur que personne ne connaît.
Bon, en plus de ça, t'es un vrai fou de synthétiseur, de technique globalement de la musique. D'ailleurs, très tôt, tu as adopté le home studio dès la fin des années 70, début des années 80, à une époque où c'était relativement peu courant.
Oui. Et là même, je dirais encore réserve.
Ouais.
Je me considère pas comme un fou des synthétiseurs.
C'est vrai. C'est une passion quand même, on peut le dire, non?
Oui et non. En réalité, il s'est passé deux choses. La première chose, c'est que ma véritable vocation dans la vie, vous m'auriez vu à l'âge de 15 ans, j'étais dans l'aviation. L'aviation était mon truc. Mais pas l'aviation en tant que pilote, l'aviation en tant qu'ingénieur aéronautique, c'est-à-dire concepteur d'aéronefs, pour parler français. Et malheureusement, les maths n'ont pas suivi.
Ah!
Et par conséquent, je me suis retrouvé à faire une traversée en diagonale de mon second cycle au lycée, ce qu'on appelle lycée aujourd'hui. Donc, arrivé en seconde S aujourd'hui et terminale A, L aujourd'hui, philo. Donc
T'as complètement.
Ah oui.
Ouais.
Bah oui. Et donc, au total, je me retrouve sur les bancs de la fac de droit.
Ok.
Faute de mieux, quoi.
Ouais.
J'aurais pu faire hippocagne, mais bon, on m'a dit que le droit, ça ouvrait un peu plus de portes que les lettres.
Voilà. Mais pas trop les avions, par contre. Ça ouvre pas trop les portes des avions.
Heureusement, non.
Mais il y avait la musique.
Non, mais pendant ce temps-là, la musique.
Il y a qui passe des avions et la musique, d'ailleurs.
La musique était toujours en moi, avait toujours été en moi, sans que je m'en rende véritablement compte, ou du moins, sans que je n'ose en faire une idée professionnelle. Je savais jouer, j'impressionnais la famille, j'impressionnais les amis, quoi. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui met de l'argent sur la table, d'une manière ou d'une autre,
vous
ne savez pas si vous en êtes.
C'est un métier vraiment.
Voilà.
Hein.
Et donc, petit à petit, j'ai commencé à comprendre que je pouvais en être, mais j'en étais pas sûr. Et le côté précaire de la chose, on pourra en parler, me faisait un peu peur, quoi. Hein. Je suis une famille bourgeoise, en fait.
Ouais.
Je dois l'avouer. Et donc, je préférais une vie confortable. Et la musique, c'était pas tout à fait
c'est
ça.
Bon,
alors, le synthé, pourquoi j'en reviens à cette histoire de fou du synthé? Le synthé, en fait, pour moi, j'y voyais une prolongation de ce que le studio d'enregistrement pouvait m'offrir. Mmh. Et quand j'ai découvert pour la première fois un studio d'enregistrement, là, il y a eu comme une sorte de transfert freudien entre le cockpit d'un avion et le studio d'enregistrement.
C'est vrai, il y a des boutons. Il y a des boutons,
des manettes, des vue-mètres, des contrôles. Ouais. Et je pouvais décoller, et je pouvais faire un plan de vol, et je pouvais atterrir. Bref.
Écoute, la musique te remercie d'avoir abandonné ton idée d'avion. Ouais, remercie les maths d'avoir mis les bâtons dans les roues. Non, parce que alors ta carrière, elle est impossible à résumer en quelques phrases. On pourra d'ailleurs pas parler dans cette émission de tout ce que tu as fait parce qu'il y a trop de choses. Je pense que tu as collaboré certainement à plus d'une centaine d'albums dans ta vie.
Je ne sais même pas. Ouais. Non, je pense pas. Non.
Un peu moins. En tout cas,
probablement moins. Mais à la limite.
Pas loin.
Mais à la limite, qu'importe.
Oui, non, mais pour avoir une idée, tu vois, de la production, de la richesse de la production.
J'ai jamais calculé. Faudrait que je le fasse.
Ouais, ça serait intéressant.
Ouais, ça serait intéressant de savoir quand même.
Et alors, bon, tu as joué pour des artistes majeurs. Alors, on les cite souvent, mais parce que c'est très très impressionnant comme CV. Mick Jagger, Grace Jones, Joe Cocker, Talking Heads, Jimmy Cliff, Gregory Isaacs, Myriam Makeba, Herbie Hancock. Alors, tu les as pas tous forcément rencontrés, parce que tu étais aussi un musicien de session. Quoique, Herbie, vous vous êtes rencontrés, tu as failli produire un de ses albums, même.
Comment tu sais ça?
Ah bah, parce que t'en as déjà parlé. Raconte.
Alors là, on fait un grand saut dans le temps.
Bah oui, mais on reviendra après au début, t'inquiète pas.
Alors, Herbie était sur l'album de Mick Jagger. Ouais. Il se trouvait que Bill Laswell produisait la face B, et c'était Nile Rodgers qui produisait la face A. À l'époque, il y avait des faces A et faces B, n'est-ce pas? Et donc, Herbie était sur la face A avec Nile, et moi j'étais sur la face B avec Sly Robbie, Bill Laswell. Et à un moment, j'étais à New York, et sur un tout autre projet qui s'appelait Power Station, au studio Power Station de Nile et Bernard Edwards, se produisait un groupe, un super groupe, fait de Tony Thompson, le batteur, Bernard Edwards, le bassiste, en tant que producteur, deux de chez Duran Duran, Andy Taylor et John Taylor, et le chanteur était Robert Palmer. Robert Palmer m'a dit, Wally, viens, on se connaissait depuis, enfin là, tu m'as obligé à faire ce saut. Et donc j'arrive dans le studio, et je Herbie, how you doing? Oh man, love it. Et il me connaissait. Moi, je ne savais pas qu'il me connaissait. Enfin, il a probablement. Il a des filles. Enfin, il avait qui connaissaient mes musiques et qui savaient ce que je faisais avec les Anglais, Level 42. Et c'est peut-être comme ça que Herbie a pris conscience de ce que. Voilà. Hey, you can play.
Et donc, il a été question que tu produises éventuellement un de ses albums. Il y avait même dans la discussion. Oui. Vous avez bouffé avec Quincy Jones, avec Herbie ensemble.
Oui. On en a discuté.
Et finalement, ça s'est pas fait.
Ça s'est pas fait. Alors, ça s'est pas fait parce que, au moment où moi j'étais prêt, donc j'étais à Nassau, aux Bahamas, en train de commencer à travailler sur des choses, à lui présenter, quoi. Et lui, il était en croisière, parce qu'il adorait ça, lui faire le piano jazz croisière. Il faut croire que ça payait bien. Et donc, enfin, c'était vraiment une question de mismatch d'agenda, quoi. Ah. Qui fait que ça s'est jamais
c'est
fait.
C'est dommage.
Oui et non. Ah. En fait, moi, je suis plutôt fataliste. Moi, je suis du genre à me dire, si ça s'est pas fait, ça s'est pas fait. Voilà. Il y a peut-être une raison à cela, et vaut mieux. Et pour tout vous dire, très honnêtement, je ne vois pas, jusqu'aujourd'hui, ce que j'aurais pu apporter à un bonhomme qui a été mon maître, mon mentor. Enfin, lui fait partie des personnes sans lesquelles je me serais pas vraiment lancé, qui a tellement influencé les musiciens, enfin, influencé tous les claviers comme moi, quoi, je veux dire.
Surtout qu'on peut le dire, alors, t'as une musique variée, t'as pu faire beaucoup de choses différentes, mais globalement, jazz fusion, aussi une fusion avec la musique africaine, le funk, c'est un peu ce qui caractérise
tout
globalement quand même musicalement.
Oui.
Donc Herbie Hancock, ça a du sens, quoi.
Bah, mais je trouvais que Herbie, sans lui, je n'aurais jamais fait toutes ces choses, et que lui, il pouvait le faire sans problème, il avait pas besoin de moi. Et alors, quand je vois Herbie, il était à l'hôtel Crayon, à un moment, il descend de sa chambre, il me dit, Wally, qu'est-ce qu'il faut que j'écoute comme musique? Je dis comme ça. C'est Herbie qui me pose la question. Lui qui a une connaissance biblique, encyclopédique de la musique. Qu'est-ce que je peux bien lui apporter? Et jusqu'aujourd'hui, je m'interroge. En fait, c'était l'idée de son manager, Tony Myland, qui à l'époque était le manager également de Fine Young Cannibals. Je sais pas si vous
connaissez. Bien sûr. She drives me crazy.
Voilà.
Quel tube.
Et qui donc était le manager de Herbie aussi. Et qui, c'était son idée à lui de nous mettre ensemble. Voilà. C'était pas tout à fait Herbie qui en était demandeur, c'était le manager.
Oui.
Donc, c'est des rêves de manager, tu vois. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas ce qu'on aurait fait ensemble.
Il y a un autre avec qui ça a failli se faire. Vous avez fait des sessions ensemble. Ça, ça a rien donné finalement. C'est James Brown.
Alors ça, c'est une sacrée histoire.
Ça va,
ouais, quand même, ouais.
On parlait de prestige. Enfin, je suis désolé, Willy. Ça, c'est à peu près. Non,
là, on est dedans, là.
Nous, avec James Brown.
Alors, James Brown. Alors, donc, là,
c'est une idole pour toi, en plus.
Ah, bah, c'est pour quiconque fait de la musique un tout petit peu rythmée, c'est forcément une idole, quoi. C'était la base même de, bah, il n'y a pas de hip-hop, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de funk, il n'y a pas, enfin, voilà. Donc, pour nous, tous, c'était une idole. Donc, pour vous dire clairement les choses. Donc, on est Sly, Robbie et moi et Mikey Chung, le guitariste, et Barry Reynolds, le guitariste aussi. On revient de restaurant un soir, avant de rejoindre le studio. Et sur le chemin, celui qui s'occupait un peu de ramener des projets à Blackwell, comme Joe Cocker et tout ça, parce que nous étions un peu le house band de Compass Point à l'époque, s'est dit, alors je le traduis en français, hey les gars, et si on amenait James Brown? Et Sly et Robbie et moi, on le regarde et dit, vraiment? Tu peux faire ça? Ben oui, bien sûr. Oh non, c'est pas un problème.
Il était un peu arrogant quand même.
Il fallait qu'il fasse ses preuves en fait. Ouais. C'était le fils de Jerry Wexler. Jerry Wexler qui avait fondé Atlantic Records. Donc d'accord. Le fils, Paul Wexler, était donc un peu chez Blackwell, un tout petit peu à tenter de montrer qu'il savait qu'il en était lui aussi. Donc il pouvait faire venir Monsieur Brown. Donc il a fait venir James Brown à Nassau, Bahamas. C'était toute une histoire, rien que de l'avoir sur l'île, c'était carrément le corps diplomatique au grand complet, c'était tout un truc, une grande réception chez Blackwell, et puis le soir, on va en studio pour enfin démarrer. Et là, c'est produit ce qui devait se produire, autrement dit, un clash. Bah oui, parce que James Brown, c'est qui? Bah, c'est comme vous le savez, c'est un tortionnaire absolu, un tyran, un dictateur.
Ah ouais.
Bah, avec ses groupes d'antan, que ce soit les Famous Friends ou les Jamies, c'était l'enfer. Bon. Ça, tu l'as fait pas avec les Jamaïcains.
Ouais, Sly Robbie.
Bah oui,
ouais,
tu as montré à Robbie comment est-ce qu'on joue une basse. Enfin, attends, vous pouvez jouer du honky tonk? Robbie Sly. Du quoi? Yeah, you know, honky tonk. Honky tonk, honky tonk. Ah, oh, ok. I'll show you. Donc, Brown prend carrément la basse de chez Robbie. Robbie est estomaqué. Ok, you want to play? Play! Et c'était fini, quoi. La session était terminée.
Puis il n'y a pas une histoire aussi de droit, un
non,
peu.
Non, mais attends, là, tu vas trop vite.
Je t'en pas. Il aime ses effets, donc, un peu.
Non, mais normalement, c'était fini.
Ouais.
Sauf que pendant la nuit, il faut croire qu'on a briefé Monsieur Brown, on lui a fait comprendre que c'était pas tout à fait la situation à l'ancienne. Donc il fallait qu'il écoute ce qu'on avait à lui proposer. Mm. I understand you guys, you have things to, okay, please do. Et donc, oh yeah, let's do it. Et c'est un Sly Robbie qui s'y met, il commence à concocter un petit. Puis petit à petit, le monsieur Brown, il prend plaisir, il joue le jeu. Et en fin du compte, on finit par avoir 3-4 morceaux, pas mal. Je ne dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, hein, mais pas mal quand même, à la fin du deuxième jour, quoi. Et le troisième jour, il y a son représentatif, enfin son représentant, le révérend, je ne sais plus quoi, comment, qui vient de dire, bon ben alors, c'est compris, alors c'est naturellement tous ces morceaux appartiennent à Monsieur Brown, on est d'accord.
Naturellement.
Et là, bon.
Oh là, là.
Là, on n'a même pas eu à se battre, c'est Blackwell qui a mis fin à la chose, parce qu'il n'y a pas question qu'il nous laisse spolier de nos droits, enfin, pour les œuvres qu'on avait co-écrites avec lui, quoi. C'est...
Un sacré milieu, la musique.
Mais donc, les morceaux, donc, ont été enregistrés quelque part, et sont jamais sortis.
Ce sont des inédits.
OK.
Qui risque de ne jamais sortir quand on sait la difficulté que les successeurs de Brown ont à simplement s'entendre sur quoi que ce soit. Ouais. Ne serait-ce que même sur le lieu où on devrait l'enterrer définitivement, parce qu'il paraît que c'est encore en discussion.
Ouais, d'accord. Ok. Voilà.
Bon, alors, il y a évidemment ces anecdotes folles, mais en fait, tu as aussi produit, là. Ça s'est fait vraiment. Parce que là, ça s'est pas fait avec Herbie Hancock, c'est pas fait avec James Brown. Oui. Ça s'est fait avec Salif Keita, ça s'est fait avec Fela Kuti, ça s'est fait avec Marianne Faithfull, avec Level 42, tu le disais. Tu es quasiment un membre du groupe, d'ailleurs, Level 42. Enfin, en tout cas, tu vas les accompagner dès la jeunesse du groupe. Puis tu vas être là quasiment tout le temps. Il y a évidemment aussi tes albums solo. Je pense au mythique Echoes, par exemple. Alors, ça sort en 84 ou 83, Echoes?
Ça dépend des territoires.
Ouais, ok. J'ai pas réussi à bien
donc
trouver.
Donc en réalité, moi je l'avais fini en 83, il est sorti en Angleterre en 83, et puis ensuite dans le reste du monde en 84.
Ok. T'as composé aussi pour le cinéma. T'as été en charge de la musique de la parade du bicentenaire de la Révolution en 1989. Oui. C'était un gros événement en France à l'époque.
Bien sûr. C'est énorme.
Jean-Paul Goude.
Exactement.
Pas seulement en France, mondial.
Ouais.
Non, mais attends. C'est là justement que moi, je souris un tout petit peu.
Ouais.
La France sait faire des choses qui mondialement sont reconnues. Et ça, depuis justement le bicentenaire. Ensuite, il y a eu Albertville. Ensuite, il y a eu la Coupe du Monde, 98. Puis maintenant, voilà.
JO, bien sûr, 2024.
Et donc, on sait faire. Voilà. Mais à chaque fois, c'est extraordinaire.
Mmh.
Et à chaque fois, on oublie ce qui s'était fait avant.
Mmh. c'est,
vrai. C'est ce qui me fait un peu rire.
On parle peu de ce bicentenaire, alors apparemment, c'était quelque chose.
Ah, c'était quelque énorme chose. Ici.
Ouais. Moi, j'avais 11 ans, c'était quelque chose.
C'était énormissime. C'était mondialisé, c'était retransmis mondialement.
Ouais.
Vous aviez tous les chefs d'État, les grands... Parce qu'à ce moment même, il y avait le G7 qui se réunissait, donc devant... C'était qui c'était Bush ou c'était Reagan, je ne sais même plus.
En 89. C'était peut-être fin Reagan et Bush était en train d'arriver.
Je ne sais plus.
Parce que la guerre du Golfe, c'était Bush, donc c'était en 91.
Donc. Voilà, c'était 91, ouais. Donc Maggie Thatcher, enfin bref, il y avait que du beau linge.
Oui.
Une dizaine de milliers de participants, des musiciens, Jesse Norman qui chantait la Marseillaise a cappella à la Concorde. On voulait même faire venir James Brown à un moment. Ah. Il était question de le faire venir, mais il était en tôle.
Donc, on remarque le symbole était fort pour la prise de la Bastille, il aurait fallu le sortir.
Exactement, bah oui, c'était un peu le but, quoi. Ouais. On n'a pas pu, on a pourtant mis le révérend Jesse Jackson, il n'y est pas arrivé. Il devait y avoir The Culture Club, comme il s'appelait. Oui, il y avait un peu tout le monde, quoi.
Mm.
Et c'était énorme. C'était énormissime. Ça nous a pris à peu près 18 mois à faire. Hein. C'était véritable.
Ouais,
comme un film, quoi, en fait.
Bon, c'est comme je l'ai dit, on peut pas parler de tout. Si je peux terminer quand même, tu es aussi au conseil d'administration de la SACEM. Globalement, depuis pas mal d'années, tu t'investis dans le milieu des droits, des compositeurs, etc.
Oui.
C'est un truc qui tient à cœur aussi.
Oui.
Bon, et on remercie d'ailleurs parce que c'est par cette son intermédiaire Olivier Delevingne qu'on avait reçu dans cette émission, qui lui aussi est un peu dans ses bails là.
Ouais, on en a parlé.
Ils se connaissent bien. C'est Olivier, il a passé un coup de fil à Wally.
Va chez ces gars-là, ils sont sympas.
Bon, exactement. Bon. On a fait une longue introduction, mais c'est déjà, on commence à voir un peu le personnage.
Ouais.
On va rentrer dans le détail maintenant. On va reprendre tranquillement, chronologiquement les choses, découvrir ta carrière, Wally. Ouais. Et on va commencer avec ce début de carrière. On va commencer avec le début de carrière d'un point de vue, en tout cas, public. Parce qu'en réalité, ça commence avant et on va revenir. Ensuite, on va remonter un petit peu le truc. Mais quand même, je pense qu'on peut dire que pop music, ça marque quelque chose. Pop music, c'est le nom d'un morceau du groupe britannique M. Un morceau qui va devenir numéro 1 au Billboard aux États-Unis, qui va être extrêmement bien classé aussi au Royaume-Uni, plutôt bien en France aussi à ma connaissance. Et c'est l'une des premières fois où on en parlait de toi, parce que tu poses des claviers pour ce morceau, c'est ça ?
Oui.
Ouais.
Alors je suis pas le seul, hein. Il y a un autre clavier également,
ouais.
John Lewis, qui malheureusement est décédé depuis. Voilà, on est deux. Lui, il avait fait des bases séquencées. Il jouait pas vraiment. Et moi, c'est toutes les parties jouées, c'est moi qui les ai faites. Voilà.
Tu veux qu'on s'écoute un extrait d'ailleurs avant qu'on en discute ?
Oui, bien sûr.
On fait comme ça ? Allez, super. Pop musique de M. Dire que ce morceau, pour un tube pop, il a une certaine originalité à l'époque, notamment dans ses sonorités électroniques.
Bien sûr.
Ouais.
Alors quand je dis bien sûr,
ouais.
Là encore, par honnêteté intellectuelle, je devrais dire, je ne m'en rendais pas compte, moi, à mon niveau.
On est en 79, hein, je le rappelle.
79. On ne s'en rendait pas compte. Je dis bien « on », c'est-à-dire Robin Scott, qui était le producteur et le chanteur donc de ce morceau. Mais comme toute histoire de succès, c'est ce que vous renvoie les autres qui finit par...
Comme d'hab, ouais.
Comme d'hab. Et donc, c'est ce que David Bowie, David Byrne, les Talking Heads, Chris Blackwell, tout ce monde-là nous ont dit. On dit, mais vous savez quoi? Ça, c'est un morceau... C'était la première fois qu'on... Donc, ça fait partie des morceaux qui posaient les jalons de la New Wave. Voilà.
On t'a dit, David Bowie a dit, j'ai entendu pop musique, ça m'a mis une claque.
Ah oui.
Ah oui. C'est pas mal. Oui, là, c'est prestigieux ou pas, du coup, là,
David, David Bowie est venu nous voir après, quoi. Il est venu nous voir à Montreux lorsqu'on a enregistré l'album, parce qu'on a enregistré d'abord ce morceau-là, et ensuite on a enregistré le reste de l'album, ce qui est rare. Enfin, en général, on fait tout ensemble. Mais... Et David Bowie est venu nous voir. Je n'étais pas là, je ne l'ai pas vu. C'est l'un de mes grands regrets. J'ai jamais vu David Bowie. Il est venu, mais je n'étais pas là. Voilà. Mais je sais qu'il est venu, il a d'ailleurs fait des claps, hand claps sur un des morceaux de l'album. Ouais.
Et comment tu... parce que si on remonte maintenant, toi tu nais en France, à Paris, mais ensuite tu vas passer toute ton enfance et ton adolescence au Bénin, pays d'où tu es originaire.
Oui.
Tu reviens à 17 ans, service militaire, la fac, et en fait... Je dirais pas par hasard, mais tu fais certes de la musique, mais il y a un truc qui va se passer de manière très très rapide, assez étonnante.
Tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a comme une compression du temps. En réalité, les choses se construisent de longue date, mais sans trop se rendre compte. Pendant, on va dire, une bonne partie des années 70, j'étais paumé, mais vraiment paumé. C'est-à-dire que je faisais de la musique, certes, je passais beaucoup trop de temps selon mes parents.
Ouais, évidemment.
Qui pour eux, c'était une horreur de s'imaginer que j'allais mettre à ce truc-là alors que j'avais les capacités, j'avais des facilités en tant qu'étudiant, j'avais aucun problème. Donc pourquoi se réduire à cette chose-là, être saltimbanque, alors que tu peux être un grand avocat international, à défaut d'être médecin, mais mes deux parents étaient médecins. Donc vous comprenez la valeur de des études.
Ouais.
Pour eux, c'était important. Quand on sait un peu leur parcours, je ne leur jette absolument pas la pierre. Donc j'étais un peu tiraillé entre ces deux choses, parce que je faisais du droit, mais j'avais pas envie de faire du droit, et pourtant ça allait tout seul. Et donc je passais du temps à zoner carrément avec des groupes sans lendemain. Or, ces fameux groupes sans lendemain, c'est là qu'on apprend les choses. Mmh. On apprend en faisant des choses qui n'ont pas d'importance.
Que je comprenne bien, à la maison, tu te mets au clavier, parce que tes parents ont acheté un piano à la base pour ta sœur d'ailleurs.
Oui.
Tu squattes le piano, ça devient une passion.
Oui.
Et là, tu commences à tourner. Tu tournes beaucoup à Paris, des jam sessions, des trucs comme ça, tu joues avec des gens.
Voilà, je commence à zoner. C'est-à-dire à passer énormément de temps dans des caves pas éclairées avec une seule lampe, machin, avec des cafards, avec un seul ampli pour tout le monde. Je m'étais procuré un piano électrique, mon premier piano électrique, je l'avais acheté à un pianiste de jazz. J'avais travaillé dans une usine à papier pour pouvoir me le payer. Bref, je faisais mon truc à moi, quoi. Mmh. Et on répétait inlassablement pour des tournées qui n'avaient jamais lieu ou pour des disques qui ne se enregistraient jamais. Voilà. Mais c'était avec essentiellement des Antillais. Mmh. Essentiellement des Antillais. C'est comme ça que j'ai rencontré, avant même qu'ils ne deviennent Kassav et tout ça, le beau monde.
Ouais.
Et c'était des jazzmen. Ils étaient tous imprégnés de Herbie Hancock. Et c'est pour ça que Herbie, toujours pour moi. Et donc, c'est avec eux que j'ai appris. C'est avec eux que je me suis forgé, sans même m'en rendre compte, les bases. Ce qui fait que lorsque 4 ans plus tard, je me retrouve avec Level 42, j'avais déjà ces choses-là.
Comment la connexion se fait, du coup? Comment tu passes de ces jam sessions avec des groupes sans lendemain à bosser avec Level 42?
Alors, vous voulez vraiment l'anecdote? Vous voulez une anecdote?
On veut l'anecdote parce que, et pour préciser, c'est, si je dis pas de bêtises, 78, tu termines ton service militaire.
Oui.
2 ans après, tu enregistres avec Grace Jones.
Exactement.
À l'autre bout du monde.
Exactement. Ouais.
Quand même.
Donc, c'est qu'il y a eu
un
truc
passé quelque chose pendant ces 2 ans.
Daz te demandait, effectivement, c'est quoi ce truc qui s'est. C'est quoi le switch? Enfin, qu'est-ce que.
C'est pour ça que je vous parle de chance. J'étais donc artiste Barclay à un moment, sorti du service militaire, j'avais rencontré 2 jeunes français qui avaient envie, enfin 3, qui avaient envie de monter un groupe genre Genesis et tout, donc on avait été signé chez, je leur avais dit bon bah écoutez moi je peux faire du clavier avec vous, ouais, et on avait été signé chez Barclay, et moi j'étais signé comme chanteur. Chez Barclay, il y avait un réalisateur artistique, Je ne vais pas dire son nom ce soir parce que je ne voudrais pas que ça lui pose problème et on en parlera probablement, je le reverrai bientôt.
Pour régler les histoires.
Qui, pour arrondir ses fins de mois, faisait des musiques de films porno.
Ok.
Alors dans d'autres interviews, j'ai entendu dire érotique. Là, on passe au porno. C'était, en fait, c'était un peu plus rude que érotique. Donc,
voilà, donc tu connais l'histoire. Donc, soft porn, quoi.
Ok. Ouais.
Mais il me dit, Wally, t'inquiète pas, il n'y a pas d'image. C'est, tu viens, tu fais du piano, voilà, tu improvises ce que tu veux, et je te paye 1000 balles. Et j'aurais pu dire non à ça. Et c'est pour ça que je parle de chance. J'aurais pu très bien draper dans ma fierté, lui dire, mais attends, mais c'est comme ça que tu témoignes ton affection sur ce que je fais, c'est en voulant coller ma musique sur des images cochonnes. Hors de ma vue! J'aurais pu le faire ça. Ouais. Et j'en connais qui auraient fait ça. Ouais. Moi, au contraire, j'ai dit oui. Oui, pourquoi? Parce que, bon, d'abord, j'allais me retrouver dans un studio d'enregistrement. Qui pour moi, le lieu, vous savez, I belong to the studio. Voilà. Et j'allais me mettre à improviser sur un piano extraordinaire, un Steinway, et j'allais être payé en plus.
Mais du coup, là, il n'y avait pas de synchro, tu ne voyais pas les images, du coup.
Il n'y avait pas d'image, j'avais pas besoin d'image.
Donc comment tu sais, quand, tu vois, ouais.
Mais coller à l'action. Il y a besoin que ce soit vraiment adapté.
Mais tu ne sais pas, tu t'en fous. Ouais. Moi, je joue et c'est eux qui montent.
Mais à l'époque, ils mettaient même carrément, il y avait du Grover Washington Jr. sur des boulards et tout.
Ouais,
ouais, ils étaient, non, mais ils étaient détentes, les mecs.
Soyons clairs. Il n'existe pas de musique de film porno, ça n'existe
pas. Bah ouais.
Il existe de la musique, c'est tout. Ouais. Donc tu peux très bien mettre du Beethoven, du Bach,
Il y a des musiques qui sont quand même plus compatibles. Ou des instruments, en tout cas, tu vois.
Ça dépend des scènes.
Ça dépend des scènes. Exactement.
Tu peux un porno avec de la musique classique.
Bah, tout dépend de ce que tu y mets, du genre de décalage que tu veux faire. Et alors? Attendez, mais vous connaissez le Caligula, ça vous dit quelque chose? Un film de Tinto Brass, qui est un film où vous avez des acteurs de renom, Peter O'Toole, Helen Mirren, Michael McDowell, enfin des grands acteurs, quoi. Ouais. Et c'est un film porno. Et vous avez de la musique classique tout le long du film. Bon, voilà, non. Tout dépend de. Il y a porno et porno.
Ouais.
Et puis il y a porno chic.
Voilà. Mais porno. Toi, tu savais pas, du coup, dans quoi tu t'engageais.
Je m'en foutais totalement.
Ok.
Moi, tout ce qui m'intéressait.
C'était les 1000 balles, déjà.
Ouais. Non, c'était surtout de jouer du piano.
Ouais. Ouais.
Dans un environnement. Parce que les 1000 balles, j'aurais très bien pu ne. Ouais. À l'époque, j'étais pas à ce point, à la rue que c'était à ce point important. C'était plus l'idée d'être dans un studio et d'avoir un piano, de pouvoir improviser.
Et du donc, coup, t'étais crédité sur ces trucs?
Enfin, non, même pas.
Non, ouais. Ouais,
j'ai jamais vu le film. Je sais même pas de quel film il s'agit. Je sais même pas. Je connais même pas le titre. Je ne sais même pas si d'ailleurs, ma musique.
Elle est vraiment apparue au film.
Elle est vraiment apparue sur le film en question.
Mais par contre, ça a été une chance, tu disais. C'est que ça a donné derrière autre chose.
Pourquoi ça a donné une chance? Parce que le petit coquin, ce qu'il m'avait pas dit, c'est que je ne serais pas seul. Tu viens, tu improvises. Mais non, tu improvises avec deux autres gus. D'accord, il y avait un batteur et un bassiste avec moi. Donc on était un trio. Et ces deux lascars, c'était des Anglais. Un certain Julian Scott, frère d'un certain Robin Scott, qui à la fin de la séance me dit « Wally, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je vais parler de toi à mon frère qui prépare un morceau. On va t'appeler et tu viendras faire OK ?»
Okay. Et ça va devenir pop musique.
Mais c'est pop musique. Mais je ne savais pas.
Oh, la connexion, quoi.
Voilà.
Ouais. Donc, oui, effectivement, là, la chance, quand même. La chance et l'envie de faire.
Oui.
Bah ouais. Ouais.
Oui, mais c'est une chance extraordinaire.
Ouais.
Parce que si j'avais dit non, ben, j'aurais pas rencontré ce mec-là. J'aurais pas fait pop musique. J'ai pas fait pop musique. Il n'y a pas Chris Blackwell. Parce que Chris Blackwell, ce qui le fait m'appeler, c'est qu'il avait entendu pop musique. Il en était tombé fou amoureux. Et on en a parlé il n'y a pas longtemps encore.
Alors, avant de parler de Chris Blackwell, immense producteur, créateur du label Island Records, etc., on en parlera, et puis surtout du studio dans lequel tu vas intégrer, tu parlais de House Band, c'est ce qui va arriver, mais ça, on parlera dans une deuxième partie.
Mais c'est pour ça, attends, que Island Records, c'est pour ça que c'était enregistré aux Bahamas, c'était littéralement une île.
Oui.
Ok, parce que pour moi, c'était genre, ça s'appelle Island Records, mais...
Bah, peut-être que ça s'appelait comme ça avant qu'il s'installe à Nassau,
d'ailleurs.
Ah oui,
d'ailleurs. Bien avant, rassurant. Ouais. Ouais, ouais, justement, alors, si je peux vous rassurer, je suis en train de travailler, vous me demandez ce que je suis en train de faire, je suis en train de travailler également sur un documentaire sur Blackwell.
Ah.
Car, comme vous, je ne connaissais pas Blackwell au moment où il m'appelle pour travailler sur un disque de Grace Jones. Donc, je vais à Nassau et je découvre Chris Blackwell. Pour moi, c'est un producteur comme il y a 36 000 producteurs. Je n'avais pas du tout compris quelle était la magnitude de ce mec-là.
Oui, à l'époque, c'est Bob Marley, Roxy Music.
Ah oui, ça va quand même.
Un tout petit peu, quoi.
King Crimson.
On va dire que déjà, ne serait-ce que de Jimmy Cliff à Marley, en passant par tous les autres, le reggae ne serait pas ce qu'il est mondialement s'il n'y avait pas eu un Chris Blackwell pour en être le producteur.
Mais juste, Willy, avant qu'on en parle, parce qu'il y a quand même aussi des trucs qui se passent en France. Alors en fait, ta carrière, ça va être beaucoup parce que, je spoil, mais pendant 14 ans, en fait, tu as bossé avec Chris Blackwell dans ce studio à l'autre bout du monde, là, aux Bahamas. Mais en fait, tu vas mener en parallèle une carrière en France, tu vas continuer des activités ici, puis là-bas, etc.
Très peu. Oui. Beaucoup plus en Angleterre, en fait.
Ah, c'est vrai, oui, tu as raison. Pardon. Oui. Mais en tout cas, il y a quand même un truc que tu me dis si on est encore parce que c'est 80 donc avec Chris Blackwell.
Oui.
Est-ce que c'est avant que tu croises Daniel Vanguard ?
Non. Ah. C'est justement Daniel Vanguard qui me fait rencontrer Blackwell. Pourquoi ?
Parce que... il faut que tu nous parles de Daniel Vanguard, qu'on raconte qui c'est et que tu nous dises.
Bah oui.
Parce que Vanguard, c'est son.
C'est son pseudo en plus.
Oui, c'est son pseudo, parce qu'en fait, il est Vangalter.
Daniel Vangalter. Ça m'a valu quelque chose, Vangalter.
Tiens. Oui, c'est le père, son enfant est en bleu dans Wikipédia.
Ouais, oui.
Donc oui, Daniel Vanguard.
Je disais tout à l'heure que j'ai travaillé beaucoup avec les Antillais. Ouais. Et oui. Et parmi ces Antillais, il y avait quelques gus qui s'appelaient les Gibson Brothers, qui étaient en fait les frères Francfort Antillais. Et il se trouvait que eux avaient un producteur qui s'appelle Daniel Vanguard. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des séances d'enregistrement avec Daniel Vanguard sur des tas de choses que l'honnêteté intellectuelle m'oblige à dévoiler ce soir, que ce soit Ottawa, D-I-S-C-O.
Ça, il faut qu'on écoute un extrait, ça c'est incroyable.
Ah ouais,
ça.
T'as fait ça aussi.
T'as fait quoi sur D-I-S-C-O ?
J'ai fait la flûte de Pan.
C'est vrai, il est au synthé donc.
Au synthétiseur.
Ah, incroyable.
Celle qui démarre le morceau.
Bon, on met ce classique des campings.
Allez.
Qui est incroyable d'ailleurs. Allez. D-I-S-C-O disco en fait, Ottawa.
Quoi là, 80?
Oh non, bien avant. Il me semble, hein. Voilà.
Ah, c'est ça la.
On entend bien ta flûte de Pan. Ouais.
Ah, c'est une chanson anglaise.
Exactement, tu as raison de préciser que c'est la version anglaise parce qu'il y a aussi la version française. On peut se mettre.
On va commencer par la version française.
Ah, ok, allez, c'est parti. J'avance. Et figure-toi que c'est bien 80.
Ah oui?
Ouais, ouais. Non. Alors peut-être que vous bossiez dessus depuis.
Oui,
un peu
mais
avant,
ça c'est une ressortie, ça, parce que. Ouais. Oh, oui, on a fait. Parce que moi, en fait, oui, ça devait être entre 79 et 80.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, parce que tu vois, le groupe serait, d'après Wikipédia, en tout cas, serait formé en 79, tu vois, Ottawa.
Oui, c'est ça, c'est plutôt 79. Ouais.
Et l'album sort en 80, en tout cas, ouais. Okay.
Et tout ça se fait pratiquement au même moment. Quand je fais pop music, je fais également. En fait, à cette époque-là, je faisais des tas de séances. Je faisais jusqu'à 5 à 6 séances par jour.
Ah oui.
Ah oui, c'est une grande époque où j'étais ce qu'on appelle le requin de studio, spécialiste des synthés. On n'était pas très nombreux sur Paris. On était 4 ou 5.
Ouais.
Donc, on faisait toutes les séances, que ce soit de Dalida, machin, tout ça. Donc, il se trouvait que, voilà, il y avait, avec Vanguard, je faisais Ottawa. D-I-S-C-O, Olé Main également, et un troisième dont j'ai oublié le titre. Et puis voilà, Daniel Vanguard et Chris Blackwell se rencontrent au Midem à Cannes, je pense ça a dû être en 79 ou en 80 début, enfin bref. Il se trouve que Blackwell distribuait les disques de Vanguard. Et oui, il était le distributeur. Et c'est comme ça.
Encore une rencontre qui t'amène à une autre rencontre du réseau.
Ben oui, parce que c'est Blackwell qui dit à Vanguard, qui confie à Vanguard son souci. Il cherche un clavier européen.
D'accord.
Pour joindre à Sly et Robbie pour faire un cocktail particulier pour Grace Jones. L'européen, c'est moi.
Parce qu'il y a vraiment une différence de jeu entre un clavier européen et un clavier américain, par exemple, ou?
Ben, oui.
Ok.
C'est quoi, c'est une approche du son?
C'est les machines même qui ne sont pas les mêmes.
C'est drôle ce que vous me dites là, parce que c'est tout récemment que j'en ai pris conscience. Nous n'avons pas les mêmes, la même culture. Un clavier américain est tout à fait, complètement, comme on le sait, dans le jazz, le rhythm blues. En Europe, nous avons donc l'impact culturel anglo-saxon, américain, anglais, et mais nous avons également des choses latines qui nous font faire des choses que... Écoutez bien le début de Liber Tango. I've seen that face before. De Grace Jones.
Bien sûr, on peut s'écouter ça. Parce que alors c'est pas sur le premier album sur lequel tu as bossé.
C'est sur le deuxième.
Sur Nightclubbing.
Ouais.
Mais on peut s'écouter ça, bien sûr. Parce que, en plus, c'est une, alors, il faut préciser. Donc, tu sais quoi, passons à cette deuxième partie. Où là, vraiment, ta carrière prend de l'ampleur. Tu vas connaître le succès. Donc, tu débarques. Il y a ce producteur, Chris Blackwell. On reviendra un peu sur son expérience. Mais qui fait appel à toi par l'intermédiaire. Donc, Vanguard lui en parle. Voilà. Etc. Et il cherche donc ce clavier européen.
Voilà.
Et toi, tu débarques, en fait, aux Bahamas. Il a déjà un studio.
Bien sûr.
Et
il avait déjà créé son studio depuis 77.
OK.
Et
à Nassau.
À Nassau, Bahamas. Ouais. Mais en fait, Blackwell est jamaïcain. Donc, en fait, Nassau, c'est juste
Il vit en Jamaïque. Parce que
il est basé en Jamaïque au départ.
Parce que lui, il est quelle origine à la base?
Jamaïcain.
Il est né en Jamaïque.
Oui, c'est un Jamaïcain, Blackwell. Un blanc Jamaïcain.
Je savais pas ça. Okay. Oui.
Mais alors pourquoi les Bahamas et pas
Pourquoi les Bahamas
Kingston
et pourquoi Kingston? Tout simplement parce que Kingston, c'est un tout petit peu violent par rapport aux Bahamas.
Okay.
Les Bahamas, c'est calme.
Ouais.
Il s'y passe rien. La Jamaïque, c'est
un
caractère quand même.
Ok.
Donc, si vous voulez faire venir des groupes internationaux qui enregistrent tranquillement dans le machin, il vaut mieux les Bahamas. Ouais. Voilà pourquoi.
Ça se tient.
Et donc, c'est pour Grace Jones. Il dit viens.
Oui.
Vous allez faire 3 albums.
On va faire 3 albums, on va faire même plus.
Pour Grace Jones, plus encore pour Grace.
Non, on va faire 3 albums pour Grace. Ouais, c'est vrai.
Oui. Et donc, sur le deuxième, tu nous parlais, donc, le deuxième qui est Nightclubbing, Liber Tango.
Ouais.
Alors, beaucoup de des morceaux de ces premiers albums de Grace Jones, enfin des albums que vous avez fait avec Grace Jones, c'est des reprises initialement, c'est
tous.
Ça? Ce qui est le cas de Liber Tango aussi.
Tous. Ce sont tous des reprises, tous, sauf sur le 3e album.
Ok.
Les 2 premiers albums ne sont que des reprises.
Sauf qu'effectivement,
il y a eu un morceau ou deux écrit par Barry Reynolds aussi, c'est vrai.
Et ce que tu cherchais à nous dire, c'est l'interprétation européenne, parce que quand on écoute la reprise.
Oui, écoute bien, une mélodie que je fais au synthétiseur.
Ok.
Et que jamais un clavier américain n'aurait fait.
Allez, on s'écoute ça. Super morceau d'ailleurs.
Maintenant.
Un peu éthéré, on dirait presque du thérémine, tu sais.
Tout
un
à
peu,
fait.
Ouais.
Voilà.
Ok. Petite note aiguë là.
Voilà. Pas seul genre de choses.
Ça, tu penses, c'est typiquement européen?
Oui, totalement.
Okay, d'accord.
C'est totalement méditerranéen, je dirais même.
Ah.
C'est surtout, si t'écoutes bien, parce que là, on a écouté, on se parlait au moment où il se passe une petite articulation dans la mélodie.
Ouais.
Pa-dam, 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 pa-dam. Ça, cette partie-là.
Tu veux qu'on remette?
Ça, c'est carrément européen.
Vas-y, on remet. Tu nous fais signe quand ça arrive?
La progression là, c'est
une progression là.
On s'écoute juste un peu la voix de Grace Jones qui arrive après. Night, waiting for the day. Ouais, c'est élégant, ça, c'est beau. J'aime
bien. Mais Grace Jones, à l'époque, parce que c'est un personnage, mais c'était quoi? C'était d'abord un modèle, après une chanteuse, ensuite une actrice. C'était dans quel ordre qu'elle a fait le...
Tu la connaissais même pas quand tu débarques.
Tu as tout dit. Ouais. C'est d'abord une modèle.
D'accord.
Qui a profité de la vague disco pour se faire connaître en tant que chanteuse. Ouais. Donc elle avait fait La Vie en Rose.
Oui, bien sûr.
Qui a fait un très gros tube pour elle.
Ouais.
Et le disco mourant, fin des années 70, début des années 80, Blackwell a eu donc l'idée de lui donner une nouvelle peau en faisant autre chose. Et c'est une bonne question que tu poses, car crois-moi que moi-même, je me la suis posée tout le long.
Tu savais pas qui c'était quand tu débarques à Nassau, toi, Grace Jones? Enfin, ou de loin, quoi.
Si, non, je savais que c'était une diva disco.
Ouais.
À mettre sur la même ligne que Donna Summer, Gloria Gaynor, voilà, c'était les chanteuses disco. Voilà, point barre pour moi. Et donc, quand Daniel Vanguard me dit « Chris Blackwell va t'appeler pour un disque de Grace Jones », je dis « Ah, ok, bon, d'accord. Mais un bon d'accord, genre, je suis content d'y aller,
mais bon.
Essentiellement parce que c'est la première fois que je vais traverser l'Atlantique.
Ok.
J'avais jamais fait ça avant.
Ouais.
Et puis voilà, ça allait être une nouvelle expérience, sans plus. Hmm. Je n'étais pas emballé par le fait de travailler avec Grace Jones du tout.
Ok.
D'ailleurs, on peut même dire que sur le premier album, tu vas même pas être emballé tout court, même après avoir enregistré.
Oui.
Parce que t'as déjà raconté cette histoire.
Tout à fait.
Tu rentres à Paris après les sessions d'enregistrement, etc. Tu te dis, bon, c'était nul ce qu'on a fait.
Exactement. J'avais l'impression d'avoir perdu mon temps.
Ah ouais.
Que musicalement, il s'était passé pas grand chose. Entre ça et rien, j'aurais mieux fait de rester chez moi.
Ah ouais, à ce point-là.
Ah ouais, oui, carrément.
Genre, les sessions se passaient mal ou?
Les sessions en elles-mêmes, non. Mais, non, il se passait plutôt bien, mais c'était le fait d'être arrivé là-bas à toute vitesse, parce qu'on nous avait dit, il faut que soyez là, machin. Je suis arrivé avec Barry Reynolds, le guitariste de Marianne Faithfull, on est arrivé, on était les Européens qui arrivaient, et il y avait personne d'autre, pendant une bonne semaine.
Ah
donc
ouais.
Je l'avais comme ça, quoi. Ben, je me disais, mais attendez, mais
alors moi, j'avais eu rendez-vous précis et tout.
Exactement.
Toi, t'étais carré, les autres, n'importe quoi.
Exactement.
Ah, c'est marrant, ça. Moi, je pensais que...
Et j'ai détesté ça. J'ai trouvé ça pas génial.
Ouais,
et comme en plus de cela, tout se passait vraiment très relax, cool. Séance à 4h de l'après-midi, personne avant 21h. Enfin, bon, bref.
Ah ouais.
Ouais. Ouais. Enfin, c'était ça, quoi.
Ah, c'est les îles, quoi. C'est vraiment en détente.
Ouais. Voilà. Et puis, l'idée que... bon, ben, on fait un morceau, ok, Blackwell mettait, alors c'était des covers, donc il mettait une cassette, on écoutait, ça, et Robbie se regardait, il se disait, ok, boss, et ils se mettaient à leurs instruments, et ils faisaient le truc, et il y avait intérêt à être prêt tout de suite, car il y avait qu'une seule prise.
Ah
oui,
c'est
parce que
philosophie, c'est une prise, c'est tout?
Une prise. Si c'était pas là au bout d'une prise, ou deux grands maximum, on oublie.
C'est pas pour des raisons techniques, de bande, quoi
pas
que ce soit.
Tout.
C'est juste,
c'est une philosophie.
Okay.
Et c'est grâce à ça que nous avons ça. C'est-à-dire que on a gardé que le meilleur.
Ouais.
On a gardé que les choses où ils se sentaient bien.
Ouais, vous insistiez pas, quoi. C'est, si ça marche pas, ça marche pas.
Passe à autre chose.
Ok.
Genre de choses à laquelle moi j'étais absolument pas habitué.
Mmh.
Moi j'étais habitué à travailler dur. Pop music, on a passé du temps sur pop music, sur les Outaouais et tout ça. On passait du temps, c'est-à-dire que si c'était pas là, on recommençait.
On le refaisait,
quoi.
Ouais.
Alors que là, il n'était pas question de ça pour la rythmique. Après, c'est autre chose.
Heureusement, c'était enregistré dans les conditions du live. Globalement,
oui.
Tout le monde jouait ensemble dans la même
tout
pièce.
Tout le monde jouait ensemble dans la même pièce.
Ok.
Avec Chris Blackwell au milieu de nous, c'était génial. Avec Chris Jones qui faisait ses voix en même temps que nous.
Okay.
Elle faisait ses voix guide, quoi, en fait. Elle allait être
oui, après, c'était quand même enregistré
voilà.
En mode propre. Mais okay.
Voilà. Et moi, je faisais donc la rythmique avec Sly et Robbie. Parce qu'on entend sur Libertango, c'est moi qui joue avec Sly et Robbie en direct. Et après, j'ai fait en re-re quelques mois plus tard, en fait. Le ti-di-ti-ti-ti, ça n'a pas été fait tout de suite.
Ah, tu l'as pas fait tout de suite, ça?
Non.
D'accord.
Non, pourquoi? Parce qu'il s'est passé une chose. En fait, on a enregistré les deux albums en même temps. Le premier, Warm Leatherette et Night Clubbing, toutes les bases ont été enregistrées en
d'accord.
même temps.
Donc c'est et après que ça a été...
C'est sorti après. Mais ce qu'on a fait, on a peaufiné, donc on a fait tout ce qu'on appelle les overdubs, on les a fait sur Warm Leatherette, et ensuite je suis revenu pour faire ceux de Night Clubbing.
D'accord.
Voilà. Quelques mois plus tard. Quand j'ai réalisé que ce qu'on avait fait était génial. Car entre-temps, donc effectivement, je rentre à Paris complètement dégoûté.
Il n'oublie pas, il est bon.
Ouais.
Persuadé d'avoir perdu mon temps. Donc je reprends mes séances normales parisiennes, travailler avec Daniel Vanguard et tout ça. Donc, c'est peut-être possible, c'est comme ça que Ottawa, j'en ai fait entre-temps, quoi. Mmh. Et un jour, en sortant du studio Vanguard d'ailleurs, puisque c'était studio Davout à l'époque, un enregistreur studio Davout, dans ma Simca 1100, équipée d'un autoradio, je mets une cassette rough mix de ce qu'on avait fait quelques mois auparavant en assaut Bahamas.
Tu l'avais reçu, tu l'avais envoyé par...
Non, mais j'étais parti avec.
Ah, t'es parti avec, t'avais toujours pas écouté, ok.
Je l'avais toujours pas écouté, tellement j'étais...
Ah ouais, tellement t'étais dégoûté, quoi.
Ah ouais, c'était okay. Une affaire ancienne, quoi. Ouais. J'ai mis ça comme ça pour voir, quoi. Pour dire, pour me rassurer que j'avais vraiment perdu mon temps là-bas, quoi.
Et là,
je prends la baffe du siècle.
Mais alors, qu'est-ce qui a changé, en fait?
C'est quoi? C'est le traitement du son? C'est juste qu'en fait, il y avait un truc musical qui s'était passé, tu t'en es pas rendu compte?
C'est pas compliqué. J'en étais comme ça, là-bas, à Nassau, Bahamas. J'avais les boules. J'étais pas heureux. J'étais pas content. J'étais vraiment sous tension. J'avais qu'une seule envie, c'était de foutre le camp, quoi. Que je n'étais même pas à l'écoute de ce que je faisais. J'avais pas la distance.
Et malgré cet état d'esprit, t'as fait tes sessions et t'étais capable de donner du meilleur de toi musicalement?
Eh bien, c'est ce que Christ n'a pas arrêté de me dire depuis. Ouais. Vous savez, vous, les musiciens, ce n'est pas toujours lorsque vous êtes heureux que vous faites le mieux.
Ça, c'est bien une phrase de patron.
Ouais, c'est une phrase de producteur. Ouais.
Ouais. Parfois, il faut savoir vous mettre dans des conditions un peu de... Puis, le côté un peu... Il y avait une sorte de rivalité quand même, un tout petit peu. Okay. Parce que Barry et moi, dans l'avion, en allant à Nassau, Bahamas, pour la première fois, on se posait la question, on se disait, mais attends, Grace Jones, c'est du disco qu'elle fait, n'est-ce pas? Ok. Et on va travailler avec Sly et Robbie, c'est des Jamaïcains, ils font du reggae.
Ouais, qu'est-ce qu'on va faire?
Il y a quelque chose qui ne matche pas, là, dans l'histoire. On n'avait pas du tout... Parce que Blackwell ne nous avait pas du tout expliqué
ce qu'il attendait de nous.
Il n'y a pas eu de brief du tout.
Ouais.
Et d'ailleurs, voilà. Et quand on arrive là, Sly et Robbie nous voient et nous disent « Ah, can you play reggae ?» Et nous, on est là, on leur dit « No, are we supposed to play reggae ?» Est-ce qu'on est supposé jouer du reggae? Et vous, est-ce que vous lisez la musique? On tente de les titiller un tout petit peu. Bref, il y avait une sorte de
parce qu'on compétition. On l'a pas précisé, tu as beaucoup cité Sly et Robbie depuis tout à l'heure.
Oui.
Ils sortent d'où, Sly et Robbie?
Donc c'est des Jamaïcains, ultra connus déjà à l'époque. Ouais. Ouais. C'était véritablement la section rythmique, drum and bass de Jamaïque, déjà à l'époque, incontestable.
Qu'on retrouvait chez plein d'artistes en studio,
exactement.
Etc. Et tournaient.
Et voilà. Eux, effectivement, ont fait des milliers de séances. On ne compte pas le nombre d'albums auxquels ils ont participé.
Et alors, pour avancer sur cette histoire-là, donc ce fameux studio-là au Bahamas, il s'appelle Compass Point.
Compass Point. Pourquoi? Parce qu'il était basé à un endroit qui s'appelle Compass Point, sur l'île de la Nouvelle-Providence, parce que Nassau... C'est une des 750 îles
archipels
des Bahamas. Donc Nassau, la ville principale, qui n'est pas la capitale, la ville principale. Donc le studio se trouve sur la partie ouest de cette île, un peu à l'extérieur de la ville elle-même. Donc dans un endroit complètement isolé, où il n'y a qu'une seule chose à faire, la musique. Mmh. Et où aller faire de la plongée sous-marine, parce que les eaux turquoises, tout ça, génial. Si on aime la plongée sous-marine, très bien. Moi, j'étais studio, donc...
le nerd.
Voilà. En fait, le premier habitant du lieu, c'était Robert Palmer, qui...
connaît en France.
On connaît grâce à
la pub Renault.
La pub Renault, d'abord, Johnny et ensuite... Mary, ouais. Mais avant la pub Renault, la pub Heineken.
Ah ouais?
Eh ouais.
Everybody's People, là?
Yes,
ah, génial, ok.
Moi, vous me perdez, là.
Mais Robert Palmer, Everybody's People, ou je sais pas comment s'appelle le truc.
Every Kind of People.
Every Kind of People, ouais.
Attends, j'essaie de trouver ça.
Every Kind of
Robert
People.
Palmer.
Et après, tu mettras Johnny and Mary pour la pub Renault.
Ok, je l'ai trouvé. Every Kind of People, Robert Palmer. Je vais découvrir ça avec vous.
À consommer avec modération, bien sûr.
Ah!
Eh oui!
Mais bien sûr, je connais ça.
Bah bien sûr.
Eh oui. Donc ça, c'était Heineken.
Heineken. C'est ça, chaque fois qu'on allait au cinéma dans les années 70, je veux dire, c'était là, quoi, sur un grand écran, quoi.
Il l'avait pas.
Incroyable.
Ça donnait envie de boire une bonne bière bien fraîche.
C'est pas trop mal.
Ah, c'est cool, en plus. Ah. Hein. Aimer Johnny and Mary, et ça, c'était toutes les... Enfin, c'est même un... Le
jingle Renault.
Ouais, Renault l'a pris. Ah ouais, ouais, c'était l'identité sonore de Renault.
J'écoute. Johnny and Mary, c'est parti. Ouais.
des voitures à vivre. Le patin.
Pas du tout.
La R19, la R21, ah ouais, toutes, Nevada.
Toutes les Renault.
Mais cool. Ça, là aussi, on est dans une espèce de proto-New Wave.
Oui, c'est
peut-être même complètement
80.
Dans la New Wave. Ouais, je sais pas. Là, c'est 80.
Les années 80. Tout
ouais. Donc, Robert Palmer,
artiste, Island. Donc, qui dit à Blackwell, ouais, bah, tu sais, Nassau, c'est peut-être l'endroit que tu devrais faire le studio. Et donc, Blackwell fait construire donc le studio qui ouvre en 77. Les premiers à y enregistrer, c'est les Talking Heads, qui font d'ailleurs un album plus que mémorable. Et puis voilà. Puis en 80, bon, on fait Grace Jones.
T'as bossé avec les Talking Heads, toi ?
Eh oui.
T'es sur This Must Be the Place ou pas ?
Yes.
Tu sais que j'adore ce morceau.
Moi aussi.
Mais ça arrive mais tu sais plus tard, hein ?
Ouais. Non, non, pas plus. Non, non, c'était.
Non, c'est quelle année ?
This Must Be the Place, c'était pratiquement le même moment. C'était Speaking in Tongues, l'album Speaking in Tongues,
okay.
Sur lequel il y avait leur tube de l'époque, qui était Burning Down the House.
Okay.
Et tu avais This Naive Melody, This Must Be the Place. Ouais.
Et pourquoi tu aimes aussi ce morceau ? C'est une histoire derrière ?
Ouais, tu sais quoi ?
Vas-y, raconte.
Ah ouais, je suis féru de science-fiction.
Ok.
Tu connais la série X-Files ?
Bien sûr. Évidemment.
Eh bien, à un moment, t'as Mulder qui dit à Scully, This must be the place. C'est en référence à ce morceau-là.
C'est vrai ?
Ouais,
oh, génial.
Ouais. Et puis, t'as aussi quand même Oliver Stone qui utilise ce morceau comme fin, comme générique de fin sur JFK, le film sur.
Ok, je l'ai pas vu. Non, bon, c'est pas d'une originalité folle, hein, mais morceau incroyable. On s'écoute un extrait.
Allez,
Talking Heads, This Must Be the Place.
Les gens sont persuadés que c'est moi qui fais ce truc-là, mais c'est pas moi.
Tu fais quoi, toi ?
Je fais pas ce thème-là.
Non, tu fais quoi, toi ?
Je fais bien après.
Ah, tu nous dis quand t'apparaît ?
Ouais.
Moi, c'est bien, bien après. C'est David Byrne qui commence à chanter, c'est au moment du. C'est sur le refrain.
En fait, ce morceau, je trouve qu'il a, il a une douceur, mais presque une petite nostalgie, une petite tristesse, un petit truc. Il a un truc joli, je trouve.
Ben oui, c'est pour ça qu'on l'appelle Naive Melody.
Ouais, il m'a toujours touché. Et donc, sur toi, c'est plutôt sur le refrain ?
Ça arrive, tout ouais. Juste. Maintenant.
Les gens qui écoutent le podcast,
oui, voient on pas, voit pas. Mais on voit pas quoi dire. Tu fais effectivement les accords.
Je fais les pêches. Il les rejoue en direct sur la table.
Alors, tu sais quoi, ça nous amène à un truc intéressant parce que on pourra pas revenir sur tous les gens. On en a cité dans l'intro d'ailleurs avec qui t'as bossé parce qu'ensuite on l'a dit. Mais en gros, premier album de Grace Jones et puis après en fait Blackwell. Te dit, reviens. Et puis, en fait, pendant 14 ans, ce groupe qui s'est créé,
oui.
Va continuer à enregistrer.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au départ, donc, comme je te l'ai dit, il y avait cette méfiance, un peu cette compétition un peu entre nous, là, bon. Et en fait, malgré tout, c'est les deux premiers albums de Grace Jones, hein, ce qui va finir par être deux albums. Moi, je reviens entre temps parce que on n'a pas fini même simplement de faire les habillages sur le premier album. Donc, je viens terminer le premier album. Après avoir découvert, effectivement, après avoir pris la claque ouais. Que j'ai prise à Paris.
Quand après avoir changé juste d'état
voilà,
d'esprit,
dit,
en fait.
On me dit, Wally, il faut que tu reviennes. Là, je suis prêt, là. Ouais. Mes valises sont prêtes. Alors que je m'étais juré de ne plus jamais remettre les pieds là-bas. Et c'est de fil en aiguille que je me suis aperçu que finalement, je revenais tous les ans, puis j'ai fini par poser mes valises définitivement, quoi. Mmh. J'ai fait l'aller-retour 6 fois dans l'année, en 80 ou en 81. Voilà. Et donc, du coup, j'ai...
Ah, t'as vraiment emménagé un moment,
Carrément, oui. Je me suis donc basé, aux Bahamas pendant 14 ans.
Ah, mais moi, je pensais que tu faisais régulièrement. Ah ouais, tu t'étais vraiment...
J'étais basé là-bas. Ah, et donc, okay. Mon home studio, c'était là-bas.
Ah. Voilà. Et alors, attends. Qu'on comprenne bien ce que là on écoutait par exemple sur Talking Heads, ce que tu as fait sur ce morceau-là. Globalement, on a bien compris qu'il y avait des sessions qui étaient organisées, qu'il y avait le house band, donc maison, les artistes extérieurs venaient, oui. On mettait à leur disposition ces musiciens, instrumentistes. Ouais. Mais comment ça se passait? C'est-à-dire que à chaque fois c'était bon les gars, on joue, on voit ce qui se passe.
Alors ça dépendait des artistes. Lorsque le house band, en tant que house band, fonctionnait, c'était planifié. Donc, c'était essentiellement pour un chanteur particulier. Donc, Chris Jones, ensuite, c'était Joe Cocker, expérience James Brown, il y avait Ian Dury. Alors, il y avait parfois, tout le monde n'était pas forcément là. C'est-à-dire qu'on était convoqués peut-être, mais on n'était pas tous disponibles. Ian Dury, par exemple, je n'ai pas assisté à la séance d'Ian Dury. Alors que Mick Jagger, j'y étais, mais Barry Reynolds n'y était pas, par exemple. Mmh. Okay. Donc voilà, c'était un peu à géométrie variable. Pour ce qui est des Talking Heads, eux, ils étaient déjà un groupe constitué. Bien sûr. C'était simplement le fait que nous étions là que « Ah, Wally, come over !» C'était, voilà, on était invités pour ceux qui...
Ouais.
Voilà. Et c'était à ce moment-là, c'était pas planifié, c'était parce qu'on était là.
Et dans ces cas, alors, je sais que c'est un truc qui est important pour toi, parce que plus que comme un pur instrumentiste à qui on donnerait une partoche, tu t'es jamais vraiment comme ça, toi, tu t'es
jamais.
Toujours plus vu comme une espèce de co-compositeur presque.
Alors là, tu touches du doigt quelque chose de très très particulier. Et je sais que je vais me faire des ennemis chez certains de mes amis compositeurs de la CCM. Mais j'ai toujours considéré que j'étais effectivement co-compositeur de quoi que ce soit que je faisais dans la mesure où je n'ai jamais eu à exécuter une partition en studio.
C'est-à-dire on demandait de jouer des trucs. Mais...
Voilà, c'est-à-dire que quand on faisait appel à moi, on faisait appel pas simplement à quelqu'un qui savait jouer du synthétiseur, mais à quelqu'un qui allait amener les choses qu'il allait jouer. La fameuse petite mélodie dans Liber Tango qu'on a entendu tout à l'heure, je l'ai créée in situ dans le studio.
Mais personne te l'avait demandé.
Personne me l'avait demandé.
Ouais.
Il y avait de la place pour le faire, ceci dit. On a dit, mais oui, ce serait bien. Est-ce que tu veux penser à quelque chose, évidemment?
Ouais. Après, il y a un rôle hybride qui est entre les deux, qui est celui de l'arrangeur aussi.
Alors, justement,
c'est-à-dire qu'il y a une composition de base, et puis l'arrangeur, lui, il apporte une petite touche, mais quand même sur la composition de base, tu vois.
Tu touches du doigt le problème de ce que je tente de régler. Pour moi, un arrangeur est, en essence, le co-compositeur. On ne parle d'arrangement que parce qu'on considère que ce qu'il apporte n'a de valeur que temporaire.
Il y a déjà une base, en fait, quand même solide, quoi.
Mais c'est quoi la base? En général, la base, ça peut être simplement une mélodie avec une grille d'accords, quelqu'un qui fait drinling, sur sa guitare. Il m'est arrivé de faire ça. Il y avait un morceau qui s'appelait Je veux de la tendresse, bien parlant de chansons françaises, qui m'avait été proposé à arranger. Donc ça signifie que j'ai tout fait, quoi. J'ai fait le disque à moi seul, à partir d'une cassette où j'avais juste la mélodie et un accompagnement à la guitare acoustique, d'accord. J'en fais un morceau électronique. Donc je fais la basse, je fais les machins, et il se trouve qu'un Elton John, qui était en vacances en France à cette époque-là, il écoute ça, il tombe amoureux de ça, et il décide d'en faire un cover, en reprenant très exactement tout ce que j'avais apporté au morceau.
Donc, de manière tout à fait officielle et discutée, etc. Ou c'est pas un vol,
Non, c'est pas un vol. Non, mais justement, le problème, c'est que je n'ai pas signé la chose, puisque j'étais considéré comme arrangeur.
Ah ouais, du coup, ouais.
Eh oui.
Sur les droits et tout, et...
Ben oui.
Ah ben oui.
Eh ben oui, et c'est surtout, pour la faire encore mieux, à l'époque, pour être arrangeur admis à la SACEM, il fallait passer un examen. Eh oui, il n'était pas arrangeur qu'il voulait. D'accord. Examen que j'ai passé et auquel j'ai échoué.
Ok.
Et donc, je n'étais pas reconnu en tant que arrangeur. Autrement dit, zéro droit sur ce morceau-là.
Repris par Elton John.
Repris par Elton John.
Ah, les boules. Ouais, là, les boules.
Voilà, voilà.
Comment t'expliques
C'est pour aller jusqu'au bout.
Ouais,
effectivement, tu as parfaitement raison. Normalement, un arrangeur, et ça devait en soi être un métier noble. Il y a beaucoup de gens beaucoup d'arrangeurs qui s'enorgueillissent d'être des arrangeurs comme Quincy Jones. Quincy Jones, c'est toujours pensé arrangeur. Mais moi, j'ai toujours pensé que si ce que tu fais n'a pas été écrit par quelqu'un d'autre et que ça devient à ce point inhérent à la musique que les gens ont aimé, moi, quand j'écoute pam 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 pam, j'avais tout de suite Julien Clerc, ce n'est rien, ce n'est qu'un oiseau qui chante, ce n'est rien. Parce que c'est ce petit ouais. gimmick au piano suffisait pour identifier le morceau. Ouais. Donc pour moi, c'est pas simplement un embellissement, ce qu'on entend par ouais. arrangeur.
C'est la compo, c'est quelque chose, là.
Ouais. C'est carrément de la co-composition. Mmh. Pour aller jusqu'au bout. Mmh. Pourquoi je vous ai fait écouter cette fameuse petite mélodie de Libertango? Mmh. Ben parce qu'il se trouve qu'un certain Roman Polanski, réalisateur, un jour, a réalisé un film qui s'appelle Frantic, avec Harrison Ford et Emmanuel Signé, je ne sais plus laquelle exactement. Enfin bref.
C'est sa femme, Emmanuel Signé.
Exactement, donc c'est Emmanuel. Ouais. Et donc, il a utilisé le morceau. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé le morceau? Ce n'est pas les parties chantées par Grace Jones. Mm. C'est la fameuse petite mélodie.
Eh ouais.
Eh ouais. Mm.
Mais là, t'étais signé comme...
Et pas du tout.
Ah, putain, t'as rien touché, quoi. T'as pas eu de fréquence.
Ah ouais, ok.
Mais c'est pas compliqué. Je n'ai jamais touché quoi que ce soit de ce que j'ai fait en tant que synthétiseur.
Ouais.
Donc, je n'ai vécu qu'une longue spoliation.
Ouais, ok.
Les seuls avec qui l'idée que quoi que ce soit que j'amenais valait co-composition, c'était Level 42.
Alors ça, on peut en parler. Mais juste avant qu'on parle de Level 42, parce qu'effectivement, là, c'est une de tes collaborations en fait les plus poussées dans ta carrière, ou quasi, je disais, membre du groupe.
Oui.
Juste avant qu'on parle de Level 42, et puis qu'on parle aussi un peu de ce que tu as fait en France, et puis après, à ce moment-là, puis après, on terminera avec une dernière partie, justement sur les aspects économiques, etc. Pour ça.
Sur la SACEM, parce que j'imagine ouais. que du coup, tu as un avis bien tranché
oui,
sur la
bien
question.
Compris. Ouais. Juste pour... parce que ça paraît fou. Je suis sûr que t'es un super musicien, c'est une évidence. Mais comment, en fait, alors que ta carrière professionnelle était si jeune, si récente, entre guillemets, c'est parti pour 14 ans, on s'est dit, alors qu'on va recevoir tous les plus grands artistes internationaux, c'est Wally qu'on va foutre là. Alors qu'il y en aurait plein d'autres, certainement, j'imagine, tu vois, de qualité. Qu'est-ce qui explique qu'on t'ait autant fait confiance et que ça a été toi?
Bah, je pense qu'on a fait confiance surtout à un combo. C'était les Campusman All Stars dont je faisais partie. Donc c'était pas seulement à Wally qu'on faisait confiance.
Oui, c'était tout le groupe.
C'était Sly, Robbie, Wally.
Et toi, t'étais un truc. Tu t'intégrais bien dans ce groupe-là.
Bah, c'était comme si on avait toujours travaillé ensemble, au grand étonnement de nous tous.
Oui, donc il y a une vraie alchimie.
Vous voulez savoir sur quel morceau on s'est rendu compte de cela?
Vas-y.
Private Life, Grace Jones, sur le premier album. Et je te raconterai un peu ce qui s'est passé à l'enregistrement de ce morceau.
On s'écoute un extrait avant, puis après ouais. tu nous racontes.
On sent le côté reggae. Là.
Entendu ce que tu...
C'est ça.
Le ouais. petit lead là derrière.
Voilà. Ouais. Alors, pourquoi ça? Pourquoi je vous en parle? Parce qu'au moment où on a fait les bases de ce morceau-là, donc basse, batterie, guitare, moi je faisais la partie que vous entendez dès le début, une sorte d'orgue là. Pa ba pa 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 la pa. J'en ai presque les larmes aux yeux. Chris Blackwell était au milieu d'entre nous, et Chris Blackwell et moi, on se regardait, droit dans les yeux. Moi, je sais pas ce qu'il avait, lui, dans la tête, mais moi, je savais ce que j'avais dans la tête, c'est que je commençais déjà à cogiter les parties qu'on entend après.
Après, ouais.
Je les avais déjà dans ma tête. Sly, Robbie, tout ça, personne ne savait que j'avais ça dans la tête. Donc ça, c'est la dernière séance avant d'aller dîner chez Blackwell. Donc tout le monde se barre, dîner chez Blackwell, sauf l'ingénieur du son, Alex Atkin, et moi. Et j'ai dit à Alex, reste parce que j'ai des idées que je voudrais coucher tout de suite parce que je sens que sinon je vais les oublier. Mmh. Et donc, je fais toutes ces choses qu'on a entendues, la petite mélodie, le thème, ouais, les accords, les machins qui viennent par-dessus, le swear. Et ensuite, on se barre, rejoint les autres, dîner. On revient de dîner, tous, et on écoute. Genre, on se fait une écoute, quoi. Mmh. Voir un peu ce qu'on a et voir ce qu'on fait après. Mmh. Et là, c'est la surprise pour tout le monde.
Oui, parce que t'avais pas prévenu que t'allais... Ouais.
Exactement.
Ouais.
Et même pour moi, parce que j'avais même oublié ce que j'avais fait entre-temps. Heureusement que je l'avais mis.
Ouais.
Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un jail. C'est comme si c'était... Comme si ça avait été écrit, cette musique, tu vois. C'était pas simplement de l'impro.
Ouais, donc, vraie alchimie.
Vraie alchimie. Ouais. Et cette alchimie, Chris, Sly, Robbie, tout ça, ils s'en sont rendus compte tout de suite. Moi aussi, un tout petit peu. Mais j'avais encore un peu les boules au point de ne pas véritablement prendre conscience.
Ouais.
Bien après, on en a parlé. Et Blackwell, jusqu'à aujourd'hui, c'est notre morceau préféré. C'est celui-là.
Ok.
De tout
c'est
ce
le truc un peu fondateur du...
Oui,
ouais. Okay.
Parce que c'est celui qui nous a ouvert les yeux. Mmh. Et à partir de ce moment-là, Blackwell a dit « J'ai le meilleur groupe du monde ». Il me l'a dit. Il me dit « J'ai le meilleur groupe du monde ». J'ai dit « Mais arrête de arrête de déconner
». Il y a eu d'autres jalons comme ça, importants dans les 14 ans à Compass Point, des morceaux ou des collaborations qui ont été extrêmement importants.
Grace Jones, mais oui,
c'est
mais
les bases.
Oui, mais attends, Grace Jones, on n'a pas vendu énormément avec Grace Jones. Elle a eu un grand moment après Compass Point, c'était Slave to the Rhythm, c'était pas du tout Compass Point.
C'était plus vous.
C'était déjà plus nous, c'était Trevor Horn. Il y avait Joe Cocker, qui pour nous était énorme.
C'était quel album de
Sheffield Steel.
Il y a un morceau dont tu te rappelles avec Joe Cocker qui est...
Ruby Lee, par exemple.
Ouais.
Ruby Lee, qui est un morceau de Bill Withers, vous savez celui qui avait fait
Bien sûr.
Sunshine, et qu'on a repris. Toujours dans le même esprit, hein. Écoute-le si tu le
reprends. Vas-y, on écoute un extrait de Ruby Lee, Joe Cocker.
Une patte sonore.
Il y avait une patte sonore.
Ouais.
Et cette patte sonore a absolument séduit Mick Jagger. C'est pour ça qu'il est venu enregistrer son premier album solo, She's the Boss.
C'était son premier, je ne savais pas ça.
Ouais, c'était son premier album solo. À l'époque, ils avaient décidé de se splitter un tout petit peu, de respirer chacun de son côté.
Il y a un morceau d'ailleurs sur She's the Boss.
She's the Boss, il y a Lucky in Love.
Ouais, t'aimes bien Lucky in Love.
Lucky in Love avec Sly et Robbie. Et...
Allez, on s'écoute ça aussi.
Et Jeff Beck, quand même.
Oh, il y a Jeff Beck aussi dessus.
Ouais. Là, c'est Jeff Beck. Ouais.
There's a place where I still win.
banane.
Pas mal en vrai aussi.
Mais donc ça, c'est enfin.
C'est vrai, ça me fait penser juste pardon. Ça, ouais. Ça me fait, j'adore un morceau des Stones qui est pas du tout stonien. Mm. C'est Hot Stuff qui est très funk, oui. Et c'est un des rares dans leur discographie qui est très funk. Et ça me fait penser un peu à ça. Bref.
Mais le cette esthétique là musicale, cette oui. esthétique sonore, c'est un truc qui avait été conceptualisé parce que dans la, je pense que dans la tête de Blackwell, lui, il s'est dit je vais prendre des sonorités un peu reggae et coller un son plus européen aussi et on va voir ce que ça va donner.
Oui, mais ça c'était au départ ça.
Ouais.
Et ensuite il nous a laissé rouler. Là, c'est une machine qui roulait toute seule.
Ok.
Et Blackwell n'était pas là. Hein. Là c'est une production. C'était Bill Laswell qui était le producteur sur ce truc-là.
Ok.
Donc si tu veux, le son que nous avions, le fameux son Compass Point All Stars, était établi par ce qu'on a fait avec Grace Jones.
Ok.
Le concept.
Mais après, enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui après a été réfléchi entre vous. Genre, on va le faire comme ça ou vraiment ça s'est fait tellement naturellement que
complètement naturellement.
Ah ouais, en fait, c'est en clair, d'arriver à ce niveau-là de.
En fait, chacun faisait son job.
Ouais.
Sly et Robbie jouaient du reggae.
Ouais. Ils s'en foutaient, eux, ils jouaient du reggae. En
fait. Exactement. Et moi, je ne prétendais pas jouer reggae du tout.
Ouais.
C'est pour ça que ça fonctionnait.
Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, Sly et Robbie, ils se disaient jamais, putain, je comprends pas.
Non.
Nous, quand on fait du reggae, ça sonne jamais reggae à la fin complètement. ils avaient pas un côté un peu puriste.
Non, au contraire, Sly et Robbie, c'était très très ouvert. N'oubliez pas quand même qu'ils avaient fait avec Serge Gainsbourg, ils avaient fait la Marseillaise.
La Marseillaise.
Et tout. Donc, c'était des mecs qui étaient capables.
Etc. Ouais.
C'était des mecs qui étaient capables de s'ouvrir et de faire des tas de choses très 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 différentes. Donc, ils étaient très heureux de cette alchimie soudaine à laquelle ils n'avaient pas pensé non plus. C'est Blackwell, en fait.
Ouais.
Qui a parié sur quelque chose qui a fini par fonctionner à sa surprise lui aussi quoi.
Alors moi j'ai une hypothèse, enfin une question sur la réussite à la fois de ton intégration, que ça soit si fructueux cette collaboration, que c'est duré si longtemps, etc. Est-ce que c'est aussi parce que mine de rien, il faudra qu'on parle de home studio, très vite t'as été intéressé par les avancées technologiques dans la musique, etc.
Oui, il y avait quelque part cette possibilité de travailler par moi-même, c'est-à-dire que c'est vrai que au moment où nous travaillions ensemble, que nous posait les bases ensemble avec Sly et Robbie, c'était très bare, c'était très nu, quoi. C'était juste une section rythmique. Moi, par derrière, je revenais et je faisais ce qu'on appelle l'habillage. Donc je mettais du
de la matière,
c'est-à-dire de la couleur par rapport à cette base puissante qui était la leur, quoi.
Et tu penses que justement ce rapport à la technologie, à la recherche, le fait de rentrer après puis de continuer à bidouiller, etc., c'est un truc qui a fait la différence aussi pour toi?
Oui, c'est ce que je dis. Ouais. Oui, c'est-à-dire que c'est le fait de savoir travailler seul, et c'est pour ça que cette histoire d'interaction, et non. L'interaction au moment où on fait les bases, certes,
mais c'est après, qu'une partie en fait.
Voilà, mais après, pour faire toutes les parties ciselées, les parties travaillées dans...
Plus du sound design même que...
Il y a puisque je faisais mes propres sons. Ouais. À l'époque, hein, c'était pas des presets. Et au moment où je les faisais, je travaillais les mélodies, je travaillais les harmonies.
C'était quoi le matériel qu'on trouvait dans le studio?
Et piste par piste, en fait, comme un peintre.
Ouais.
D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui a véritablement défini ce que je faisais le mieux possible, c'est Manu Dibango, qui, lors d'une interview, on lui posait la question, qu'est-ce que vous pensez de Wally? Et il avait dit, Wally, c'est un peintre. Et j'ai trouvé ça tout à fait exact dans la manière dont je procède, à savoir que je travaille en principe seul, sauf lorsque je fais les bases. Je sais le faire avec Sly Robbie, avec Level et tout ça. Mais
après, pour tout le reste,
j'ai besoin d'être seul pour faire tout ce que je vais amener.
Quoi. Alors, si on revient au truc, c'est dans le studio commun, entre guillemets, là où vous faites des sessions ensemble.
Oui.
Il y a quoi comme matériel, par exemple? T'as tes propres outils, c'est des trucs, il y a plusieurs claviers, il y a quoi?
Non, je m'embête pas. À cette époque-là, je n'avais qu'un seul clavier, vraiment, mon véritable seul clavier. C'était de ces Sequential Circuits, le Prophet 5.
Ah, ben le Prophet, ouais.
Prophet 5. Ouais. Et c'était à telle enseigne que mon nickname, mon surnom, c'était Prophet.
Ok. À cause du clavier, quoi.
Exactement. Quand Robbie m'appelait, hey, Prophet! Et quand le producteur de Gregory Isaacs me voit venir, hey, Prophet! C'était Prophet, quoi. C'était mon nom.
T'aurais pu t'appeler Korg, t'as eu du bol.
J'avoue, c'est plus stylé.
C'est mieux Prophet, quand même.
Donc, ce Prophet 5 en studio. Oui. Et par contre, ensuite, quand tu quittes le studio, t'as ton home studio à Nassau.
Alors, tu fais bien
de poser et là, t'as plein de matériel supplémentaire.
Là, tu fais bien de poser la question. En fait, il s'est passé deux choses un peu de manière un peu parallèle. Au départ, je faisais tout dans le studio Compass Point lui-même. Et je faisais même les parties d'après, c'est-à-dire les overdubs, dans le studio, au même endroit, en l'absence des autres musiciens. D'accord ? Mais un jour, Il y avait un appartement que Blackwell s'était réservé dans l'immeuble qu'il avait fait construire derrière le studio, qui se situait au dernier étage, que j'ai découvert. J'ai dit « Waouh ! C'est là que je veux être !» Et Blackwell, qui tenait à ce que je reste le plus longtemps possible à Nassau, me dit « C'est à toi
okay. !»
Et c'est comme ça que j'ai emménagé et que je suis resté 14 ans.
D'accord.
C'est parce que j'avais un appartement extraordinaire.
Ouais.
Voilà. Et c'est là que j'ai mis mon home studio. Et dans ce home studio, une fois que j'ai commencé à le mettre, de plus en plus, mon travail après coup se faisait dans mon studio.
Ouais.
Mais c'était pas dès le départ, ça s'est fait après. Et dans ce home studio, justement, je l'ai conçu autour de la machine révolutionnaire de l'époque, qui s'appelait le Synclavier, qui était une machine extraordinaire, c'était le nec plus ultra des synthétiseurs. C'était la première fois qu'on voyait l'ordinateur entrer en studio.
Parce qu'en fait, c'était une machine qui était, tu avais un clavier déporté, c'était tout intégré à l'ordinateur qui permettait pas de faire autre chose, qui était uniquement dédié au synthétiseur, mais c'était...
Si, tu pouvais faire autre chose avec l'ordinateur.
Ah ouais.
C'était un ordi de base.
Ah ouais.
Oui. C'était un ordi de base, mais qui ne tournait pas sur Windows. Windows n'existait pas encore, hein. Le Macintosh n'existait pas encore. OK? C'était donc un ordinateur avec, c'était un Able Computer, c'était un qui avait son propre logiciel, son propre operating system, mais un operating qui était dédié à la musique, mais qu'on pouvait utiliser pour faire tout autre chose. D'ailleurs, j'ai appris le Pascal sur cet ordinateur.
On en parlait avant l'émission.
Ouais. Dès l'origine, il a été pensé pour pouvoir faire d'autres choses que la musique.
C'est un ordi de base.
Ah. C'est un ordi qu'on retrouvait dans le marché, qui n'était pas. C'est-à-dire que le New England Digital, le fabricant du système, c'était un système modulaire, donc eux fabriquaient le clavier et auquel ils adjoignaient cet ordinateur qu'on pouvait trouver dans le commerce, complètement indépendant du système.
Et ils vendaient le combo, en fait.
Ils vendaient le combo.
D'accord.
Pareil que l'imprimante. L'imprimante, c'était pas eux qui le fabriquaient, c'était encore un autre fabricant. Donc c'était tout un combo, le système sans clavier, fait d'un clavier fabriqué par New England Digital, avec un ordi et un lecteur de disquette. Ensuite est arrivé le premier disque dur de 5 mégaoctets.
Incroyable, colossal.
Colossal, 10 000 dollars, et j'étais le roi du monde quand je l'avais acheté.
La totale, c'est un clavier, tout, c'était combien à peu près?
Eh bien, mon système, parce que tu avais tous les prix, mon système au départ coûtait 30 000 dollars, et à l'époque, le dollar coûtait 10 francs, parce qu'entre-temps, nous avions fait l'expérience socialisant où l'application stricte et nette du programme commun de gouvernement avait dévalué le franc. Bref. Voilà. Et ensuite, à force de l'upgrader tout le bazar, au total, j'en ai eu pour 60 000 dollars. Et c'était pas le plus cher.
Et pour du home studio en plus, quoi. Enfin, pour l'avoir à la maison.
Ouais, donc c'est... Ouais.
Voilà.
Donc, c'est quand même des moyens colossaux, quoi.
Ben, disons que... J'avais, entre-temps, Blackwell m'avait fait signer un contrat d'édition assorti d'une avance. Et cette avance, je l'ai engloutie pratiquement dans le home studio et essentiellement dans le Synclavier. Voilà.
Mais ça veut dire que quand tu signes avec lui officiellement, tu sais que t'es parti pour 14 ans ou c'était renouvelé au fil de l'eau?
Ah non, mais le contrat d'édition, c'était un contrat normal pour un contrat anglais, c'était pas un contrat à la française. Les contrats à l'anglaise sont limités dans le temps. 5, 10, 15, 20 ans, ça dépend. Moi, je sais plus déjà pour quand, je pense que ça a dû être 10 ans, je pense. Et c'est renouvelable.
D'accord.
Voilà. Tu peux en sortir. OK. C'est des contrats d'exclusivité. C'est-à-dire que tout ce que je fais appartient en tant qu'auteur, compositeur, à Island Music, l'éditeur. En compensation de quoi, tu as une avance confortable. Voilà. Donc j'avais eu 60 000 dollars d'avance que j'ai investi pratiquement dans le studio à cette époque-là.
Et cette culture du home studio, tu l'avais déjà à Paris? Tu avais déjà du matériel à Paris avant de t'installer et tout?
Oui, mais je ne pourrais pas prétendre que ce soit du home studio, c'est-à-dire que je ne sortais pas du définitif de mon... Ouais. J'avais comme tout le monde...
Oui, c'était pour du drafting, quoi.
Voilà, j'avais un tech 4 pistes, un Revox, enfin... genre de machin à bande dont je prétendais pas utiliser la matière qui sortait de ce studio. Ça me permettait de faire des maquettes, tout au plus. Et la possibilité de faire du définitif est venue avec le numérique. Et oui, le Synclavier permettait déjà cela, avant l'arrivée du MIDI, avant l'arrivée du Mac et tout cela, de faire de la musique numériquement enregistrée dans la machine. Et ça, pour moi, c'était extraordinaire.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que du coup... Donc toi, on comprend que au fur et à mesure, tu montes un peu ton environnement de travail, tu step up, mais tu continues à bosser avec Sly et Robbie qui eux sont restés 100% roots.
Oui.
C'est-à-dire que à un moment donné, il y a un écart, en fait, de...
Oui et non. C'est-à-dire que chacun, de toute façon, avait sa vie. Ça, Aerobics, ouais. C'était déjà... Ils avaient
déjà fait plein de
célébrités. Moi, j'avais une double vie. J'avais ce qui se passait à Nassau, mais j'avais également ma vie avec Level 42 en Angleterre. Mm-hmm. Donc, je partageais mon temps entre les deux.
D'accord.
La navette se faisait entre Londres et Nassau.
Ouais.
Voilà. Et de temps en temps, je faisais une escale à Paris.
Bah, parlons-en. Alors, c'est quoi Level 42? C'est quoi ce groupe?
Alors, Level 42, toujours à partir de pop music.
C'est vraiment le, tu vois, le
pop music,
l'acte fondateur.
Bah, c'est vrai, oui, hein. Pop ouais. music, pour faire la promotion de pop music, donc faire des émissions de télé en Angleterre. C'est la première fois que j'en faisais. À la BBC, il y avait une émission qui s'appelait Top of the Pops.
Bien sûr.
Ben voilà, donc on a fait ouais. donc promotion de pop music à Top of the Pops. Et c'est là que j'ai rencontré d'ailleurs Trevor Horn, qui lui faisait la promotion de Video Kill the Radio Star.
Ah oui,
The Buggles.
Bien
voilà.
sûr.
Okay.
Et donc, pour faire ces émissions-là, le batteur qui avait fait pop music avec nous n'était pas disponible. Il était parti.
Ça veut dire que c'était du live hein, dans Top of the Pops.
Alors, c'était enregistré. C'était du
ouais,
live.
Ça dépend.
C'est la question.
Ça voulait être comme du live, mais en fait, ça ne l'était pas.
D'accord.
Mais à ce moment-là, d'ailleurs, là-dessus, il y a quelque chose d'important qu'il faut que je touche. J'embranche très vite pour ce qui est de Level. Ouais. Le batteur donc était parti avec Kate Bush, je crois, ce qui fait qu'on a eu un autre batteur.
Tu sors que des noms de ouf. Alors je suis en mode waouh. Okay.
On a eu un autre batteur pour faire donc les Top of the Pops, qui s'appelait Phil Gould, batteur. Il me dit bon ben j'aime bien là également, j'aime bien ce que tu fais Wally. Il faudrait que parce que jazz quoi. Hein. Mm. Donc ce serait bien que je te fasse rencontrer un bassiste avec lequel un Mark King et puis un autre un clavier Mike Lindup. Et il n'y avait pas encore le nom du groupe. Mmh. C'est après qu'on a trouvé le nom, Level 42.
Et c'est quoi la signification de ça? Il y a quelque chose?
Alors, Phil Gould, c'est lui, hein, cofondateur du groupe, le batteur, qui s'est tiré d'un roman, The Hitchhiker Guide to the Galaxy.
Bien sûr, H2G2, ouais.
Voilà. Et apparemment.
Ah bah oui, le sens de la vie.
Voilà, le sens
42,
de la vie.
42, ouais, ok, d'accord.
Voilà.
Ah bah très bien.
Bah voilà.
Ah bah oui, bien sûr. Ouais. Ok. Ah oui, donc c'était déjà. C'est vraiment un des rêves de nerd, en fait. Hein.
Je suis en train de regarder en même temps parce que je crois pas que ce soit Top of the Pop, c'est pas, tu sauras. Mais tu sais, il y a ce truc, parce qu'on parlait de live, de faux live, etc. Ouais. Et en fait, tu sais, c'est Michelle Phillips qui était la chanteuse de The Papas and the Mamas.
Oui.
Qui en pleine presta comme ça s'était mis à manger une banane sauf qu'elle était sortie chanter en même temps donc
pour
la bande son
ça chier, ouais.
Exactement ouais. Parce qu'elle avait pas envie en fait elle voulait vraiment jouer vraiment ouais, chanter ouais. etc ouais. Donc elle mange sa banane pendant qu'on entend sa voix etc ouais, ça reste mythique mais je crois pas que ce soit à
non c'était pas à Top of the Pop mais c'était une émission
ouais dans ce genre là
t'es pas contente
ouais.
que ça soit du playback
oh, oui absolument.
Et du coup, il faudrait peut-être s'écouter un coup.
Ah, bah, du Level 42, absolument, bien sûr. Quels sont les morceaux, toi, qui te tiennent à cœur chez Level 42?
Ah là là. Là, tu me poses, c'est pas possible.
Il y en a un qui est fondateur, si je dis pas de bêtises. Attends, il faut que je le retrouve, je l'avais mis de côté parce que je le trouvais. C'est Love Game.
Alors, Love Game.
Est-ce que t'étais déjà, toi, dans le.
Oui,
t'étais dans le coin déjà, ouais.
Depuis le début.
Ouais, ouais.
Oui, depuis le.
Ça te va, Love Game?
Ouais.
Allez.
D'ailleurs, si tu veux jouer la fin de Love Game, c'est là que c'est
c'est vrai
intéressant.
Ok. Je mets un tout petit peu du début,
ouais.
Et après, je passe à la.
Il y a des morceaux de 6 minutes, hein, ouais, et les plus jeunes ne comprennent pas.
Un peu vers la fin là.
Ouais, tu peux. En fait, ouais. C'est super cool. C'est comme tu le sens.
Comme je le sens. Allez, j'avance un peu. Tu m'as dit la fin intéressante. Je vais vers la fin.
Ah, c'est la toute fin, ça, n'est-ce pas?
On est à moins d'une minute de la fin, ouais.
D'accord. Ça, c'est la... Non, alors, c'était au milieu du morceau qui, en fait...
En fait, tu cherches le moment où tu fais ton petit solo. Hein,
voilà, le solo.
Ça se fait vraiment plus.
Non, mais parce que... Ce qui est drôle dans cette histoire, c'est que ce morceau-là m'a valu une expérience assez déplaisante sur le moment avec ma maison de disques, disque Barclay, puisque j'étais signé chez Barclay à l'époque.
On est en 81, là, quand ça sort, c'est ça, non? Love Games. L'album, oui, en tout cas, 81, mais je sais pas, peut-être que ça sort.
D'accord, ok.
Après, c'est Spotify, parfois les dates Spotify. Fois,
c'est aussi. En 80-81.
Ouais, ok.
Barclay, les disques Barclay étaient persuadés que le chanteur, qu'on entend là, c'était moi.
Ok. Ça ressemble vraiment pas à ta voix ou quand tu chantes?
Je sais pas. Personnellement, pas. Mais eux, ils étaient persuadés que c'était moi.
Okay. Sur la base de quoi, en fait?
Sur la base de quoi tu peux le. Ils étaient persuadés que c'était moi. Ils étaient persuadés que c'était moi. Okay. Point. Et carrément, ils étaient prêts à me poursuivre en justice pour machin de contrat et tout.
Ta propre maison de disques.
Oui.
Comment tu leur as prouvé que c'était pas toi?
J'ai pas prouvé.
Ils ont lâché l'affaire.
Ils ont lâché l'affaire. Un moment, quoi.
C'est incroyable. Bon, là, maintenant, c'est bon. Il y a prescription. Donc, c'était toi ou pas?
C'est marrant, ce groupe.
Sauf que, il y avait une indice qui les avait induits en erreur. Car effectivement, sur la pochette, c'était marqué Wally Badarou, clavier et vocalizing.
Ah, mais tu faisais des chœurs, des trucs comme ça, non?
Et non.
C'était le vocalizing.
Le fameux solo.
Ah, c'est celui qu'on cherche là.
Ben oui, c'est parti.
Il faut le trouver.
Attends, on essaie de le trouver. Attends, je le mets pas fort derrière comme ça.
C'est vocalizer, hein.
Mais c'est toi qui chante par-dessus tes enjantées notes, non?
Oui.
Ouais, c'est ça.
J'ai fait du George Benson.
Ah, okay.
Je chante et je
comme
joue
lui faisait
en
avec
même temps.
De gratte et tout.
Voilà. Okay. Donc tout ça est improvisé.
Et alors, justement, avec Level 42, c'était le même mode de fonctionnement que tu faisais aussi à Compass Point, c'est-à-dire...
Pas du tout.
Non, c'est-à-dire tu revenais pas après.
Non,
mais là, t'es producteur, en fait, avec Level 42.
Alors, pas dès le départ. Au début, j'étais un peu comme eux, quoi, finalement. J'étais musicien avec eux. Pas un musicien de studio, mais puisque j'enregistrais tout en même temps qu'eux, d'accord. Donc le morceau, on l'a créé ensemble pratiquement. Enfin bon, c'est pas moi qui l'ai, celui-là je l'ai pas composé. Mais enfin, on travaillait tous ensemble. Et dans la foulée, je faisais mes overdubs pour parler français. Et donc dont le fameux solo que j'ai fait après coup, puisque au début je faisais le clavier de base, quoi, le rythmique. C'était nettement plus les choses étaient nettement plus cadrées, quoi.
Ouais.
On avait 6 mois pour enregistrer l'album, pas plus, mix compris, quoi, avec 2 semaines de battement pour prendre un peu de repos, pour prendre un peu de distance. Donc en fait on enregistrait pendant 3 semaines, on avait une semaine ou deux de débattement et on mixait pendant 1 semaine, quoi. Parce que ils étaient à tourner sans arrêt. Level 42 n'arrêtait pas de tourner. Je n'ai jamais fait de scène avec eux.
Ah
jamais.
Oui, c'était vraiment
je n'ai fait
studio,
que du studio.
Ok.
C'est pour ça que tu n'étais pas un membre à part, en fait, à part entière, non?
Eh bien, c'est difficile à dire, hein, parce que tu n'étais pas sur scène.
Tu t'es crédité, mais tu n'es pas en gros sur les photos, quoi.
Donc, je ne suis pas sur les photos. Et je ne pouvais pas le faire, en plus, puisque j'étais encore signé chez Barclay et ensuite chez Island. Blackwell n'était pas très heureux de me voir travailler avec Level 42.
Ah oui, donc tu le faisais un peu confidentiel, quoi.
C'est pas confidentiel, je partais.
Ouais.
Mais bon, pourvu que tu reviennes, Wally, ouais, hein, parce que voilà.
Moi, j'avoue, je connaissais pas Level 42. Ouais. Je me rends pas compte. C'était gros, c'était très populaire, ça vendait.
Ça a été énorme.
Ah ouais.
Pas loin de 45 millions de disques vendus. Ah, quand tu fais la totale, quoi. Ouais. Tout, machin. C'était l'un des plus gros groupes anglais de l'époque.
Ok.
Le groupe préféré de Lady Di.
Ah ouais?
Eh ouais, qui venait les voir backstage et tout en concert.
Et comment ça se fait que c'est un... Enfin, je suis pas un maître étalon de ce qui est connu ou pas, mais c'est un peu perdu quand même en popularité. Enfin, tu vois,
ça n'a jamais été aussi populaire, en France en tout cas, que les autres groupes anglais. Et la popularité de Level en France est restée assez confidentielle. Mais en Angleterre, c'était énorme. En Allemagne, en Hollande, dans tous les pays scandinaves et tout, c'était énormissime.
Ouais, c'est marrant que ça n'ait pas pris ici, du coup.
Non. À la même, en même temps, oui. Enfin, ouais. Ça s'explique pas, vous savez. Comment vous expliquez le succès? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais expliqué.
Et alors, pour parler un peu de production, parce qu'on a beaucoup parlé de ta période Compass Point, All Star, en fait, le groupe, on parlait de All Stars.
Oui.
La production, par contre, ça arrive, j'imagine, un peu plus tard, mais ne serait-ce que, on peut parler au moins brièvement d'avec Fela Kuti, parce que c'est une légende absolue, Fela Kuti.
Oui, alors tant que je suis à Nassau, Bahamas, le producteur, c'est celui du disque, que ce soit Black Webb pour Gary Jones, ou Bill Laswell pour, voilà. Mais ce qui m'a lancé en tant que producteur réellement, c'est Level 42.
Ouais.
Car en France, ceux qui étaient dans le métier savaient. Et on n'était pas nombreux, en tant que Français, à produire des groupes anglais.
Mmh.
Et oui. Et donc, très vite, je suis devenu presque une sorte de ce qu'on appelle hot property. Même en France, je veux dire, j'arrêtais pas d'avoir des propositions pour produire pratiquement tout ce que tout ce que le monde de la variété française est le seul avec qui j'ai vraiment travaillé, c'est Alain Chamfort, allez savoir pourquoi. Mais que ce soit Julien Clerc, que ce soit Sheila, que ce soit, ben, j'arrêtais pas d'avoir des propositions. Et il s'est trouvé que Francis Kertékian me dit, Wally,
c'est qui Francis Kertékian, pardon?
C'est celui qui s'occupait de faire la Kuti.
Ok.
Il me dit, Wally, ce serait bien que ce soit toi, quoi, qui produise Fela.
Il en était à quel moment de sa carrière?
C'était en 85. À l'époque, Fela venait tout juste de sortir de prison. Lui aussi, d'ailleurs. Je travaille qu'avec des prisonniers.
C'est la réinsertion.
Je savais pas de qu'il a fait la prison. Il a eu des soucis.
Fela, c'est toute une longue histoire. C'est en fait un homme politique, pratiquement. C'est un activiste qui dénonçait la corruption, essentiellement, au Nigeria. Et il y avait de quoi faire. Et donc, ça lui a valu d'avoir toutes les ennuis du monde, de voir sa maison carrément mise à feu, sa maman défenestrée, d'avoir fait de la tôle plusieurs fois.
Pour ses opinions politiques.
Pour ses opinions politiques. Ouais. Ouais. Donc c'était pas seulement l'inventeur de l'afrobeat, le vrai, l'afrobeat, pas l'afrobeat.
Sans S, celui d'aujourd'hui.
Oui.
Le vrai, non, c'est aussi vrai l'afrobeat. D'ailleurs, il y a quelques points communs, mais c'est autre chose, par contre.
C'est vrai. Rien à voir.
Ah, j'aime ce classique.
Non. L'afrobeat, ça a été un truc énormissime quand je l'ai découvert. Moi.
Je me demandais d'ailleurs si tu as un album, c'est donc Echoes. Oui. Dans Echoes, il y a un morceau qui s'appelle High Life.
Oui.
Si j'imaginais que c'était en hommage à l'afrobeat, le High Life, à la musique nigériane.
Alors, très très bonne question. Car le High Life, le vrai High Life, il est à la fois nigérian et ghanéen.
Ah.
Moi, j'ai appelé mon truc High Life. Ça n'a strictement rien de High Life.
Ouais.
C'était juste un clin d'œil, un nom, quoi.
Okay.
Parce qu'en fait, c'était un nom de travail.
Ouais. Ou ton morceau est plus caribéen, entre guillemets, que ghanéen, quoi.
Alors, c'est drôle que tu dises ça.
Non.
Parce que pour les caribéens, oui, il est caribéen. Il est carrément zouk.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
C'est ce que me disent les Martiniquais.
Ah ouais.
Mais si tu demandes aux Congolais, ils diront pas du tout cela.
Pour eux, c'est bon, ça.
Pour eux, c'est du soukous. Eh oui. Donc, en fait, c'est une synthèse de plein de choses.
Plein d'influences, ouais.
Qui est à la fois jazz, Herbie Hancock, puisque tout est fait au synthé, la basse est synthé, genre caméléon. Ben oui. Les accents sont vraiment antillais, mais en même temps, ils sont également.
Petite pause pour découvrir ça, parce qu'on en parle, et puis après on revient à Fela Kuti. High Life, donc, sur l'album Echoes. Il a marqué cet album. Hein. C'est ton travail solo, certainement,
C'est pour cela qu'on m'a confié Fela Kuti.
Ouais.
C'est parce que ce morceau-là avait frappé en Afrique de manière incroyable. Voilà.
Allez, on s'écoute ça.
Bonne vieille Lindrum.
ça rythme.
On sent une vibe caribéenne.
Ah bah ouais, je trouve. Alors,
Attendez.
Tu veux la suite?
Attendez la suite.
Ouais, ok.
Attendez la suite, quand même.
C'était repris, ça.
Là, maintenant. Congolais, ça. Ça, c'est Zaï.
Alors, je sais pas si ça a été repris, mais figure-toi. Et alors, c'est génial. Ça, on en parlera plus tard, Wally, parce que c'est pas sur Spotify, ça, c'est embêtant. Echo, ça n'est pas. Et j'imagine que tu auras une explication tout à l'heure, qu'on parlera un peu des aspects économiques, etc.
Repris, genre dans un truc de Nintendo.
Mais alors, ce qui est dingo, c'est que dans les commentaires, tout le monde, beaucoup de gens d'Afrique, et du Maghreb, etc., disent, mais c'est un morceau de mon enfance, des années 90, c'était le générique de telle émission, c'était machin.
Et c'est en Algérie, en Égypte, en Afrique du Sud, partout.
C'est un phénomène de fou.
C'est en fait, un générique d'émission, ouais.
Ben oui, ça a été des génériques partout. Ouais. C'était pratiquement un hymne national dans bien des pays.
C'est ouf.
Et ça, tu le savais quand c'est sorti? Enfin, non. C'est arrivé plus tard, au fur et à mesure.
Alors, justement.
Ça sort 83, 84, c'est plus les années 90,
eh bien,
apparemment.
Parlons-en.
Ouais.
Je ne le savais pas au moment où ça devenait ce truc énorme en Afrique. Je ne l'ai su qu'après. Pourquoi? Parce que Island Records n'avait pas de distributeur en Afrique. Autrement dit, 100% de ce qui s'est passé en Afrique, c'est du piratage.
T'es zéro encore. C'est incroyable. Là, t'étais compositeur, mais t'as rien touché quand même.
Rien touché, ni en tant que compositeur, ni en tant qu'artiste, ni rien.
Ah ouais, ah ouais.
Voilà.
Ouais. Bah, c'est l'Afrique après, hein. On est habitué à la débrouille, quoi.
Voilà. Voilà. J'ai touché de l'argent sur High Life, mais en provenance des Antilles.
Ouais.
Eh oui. Parce que pour les Martiniquais, c'était du zouk. Au point même que les gens étaient persuadés que c'était un morceau instrumental de Kassav.
Ah ouais?
Eh ouais. Okay.
Alors, donc, cet album, qui est une histoire folle, qui a marqué, etc. Il y a plein d'autres morceaux trop bien, j'invite vraiment les gens à aller l'écouter, Echoes, même s'il est, mais il est sur YouTube en tout cas. C'est lui aussi, parce que pour revenir, on parlait de Fela Kuti, ça te permet de bosser avec Fela Kuti.
Oui, c'est-à-dire que Francis Kartikian, donc, qui était manager de Fela Kuti, pour lui, il était au courant de ce que High Life faisait en Afrique, il dit, bah, c'est forcément Wally qu'il faut pour produire le prochain Fela.
C'est marrant, parce, est-ce que, on a parlé des particularités, qui ont fait que ça a matché, à Compass Point. On a ton rapport à la technologie, ton côté européen, mais on n'a pas parlé de ton côté africain aussi. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un truc qui a joué aussi? Est-ce que tu penses dans ta musique d'ailleurs, la musique africaine, t'as quand même grandi à Cotonou, quoi.
Oui.
J'imagine que ça t'a marqué musicalement.
Ben forcément. C'est tout un ensemble qui marque. Donc je suis né à Paris, donc de culture française dès le départ. J'ai été donc nourri au biberon. Edith Piaf, Mouloudji, Guy Béard, Moustaki, c'était ça, moi, ma culture. Charles Trenet. Ensuite, je découvre la musique africaine en Afrique.
Parce que tu pars vers 7 ans au Bénin.
J'ai 7 ans, voilà. Ouais. Et donc, à cette époque-là, il n'existait pas en soi une musique béninoise, il existait des musiques de chacune des langues vernaculaires du Dahomey de l'époque, ça s'appelait le Dahomey.
Ouais, le Dahomey, ouais.
L'essentiel de la musique africaine était congolaise. C'était la rumba congolaise, avant même que ça devienne la rumba zaïroise. Le soukous. Donc ça, on entendait ça à fond la caisse. Donc moi, en Afrique, j'écoutais à la radio essentiellement de la musique africaine, c'est-à-dire congolaise, de la musique américaine, James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin, et ce qui se passait dans les années 60 en Angleterre, les Beatles, les Stones, et puis la bonne vieille variété française, Claude François, Sheila. Voilà, j'étais bercé de toutes ces choses-là. Et mon père, lui, par contre, écoutait essentiellement de la musique classique.
Ah ouais.
Et donc, j'ai été bercé, biberonné à Beethoven.
Ouais, vraiment issu d'un mélange.
Oh, voilà, c'est le melting pot. Ouais.
Voilà. C'est tout ça qui fait ce que je fais aujourd'hui. Ce que j'ai toujours fait.
En tout cas, lorsque tu bosses avec Fela Kuti, tu savais où tu mettais les pieds. En tout cas, musicalement, je veux dire. Après, je sais pas humainement comment ça s'est passé.
Alors,
raconte-nous ouais, un peu.
Alors, c'est pas compliqué. Là, avec Fela comme avec Herbie, ma question c'est comment est-ce qu'on produit des monstres pareils, quoi. Herbie, encore, bon, c'est un homme. Voilà, on peut se correspondre à ça. Fela, c'est carrément. C'est comme produire James Brown, quoi. Ça n'a pas de sens. Il se produit tout seul. Mm. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que j'ai laissé Fela faire ce qu'il voulait. Et il m'en a été amplement reconnaissant. Car j'estime que le producteur, contrairement à ce que fait Quincy Jones ou Trevor Horn, qui sont des gens qui finalement font leur propre album à travers les albums
qui
des autres.
Ils mettent leur empreinte sur, voilà. sur la musique des autres.
Moi, pour moi, ça n'a jamais été mon souci. Mon souci, c'est de ne jamais être que le complément de l'artiste, là où l'artiste en avait besoin. Fela n'avait pas besoin d'un producteur en tant que tel. Il avait besoin simplement d'un environnement qui, technologiquement, était prêt à capter ce que, pendant qu'il était en tôle, avait déjà été répété par ses fils, que ce soit Sheun, que ce soit Femi, qui avaient travaillé avec l'orchestre de Fela. Ce qui fait que, quand ils sont arrivés, ce sont des morceaux qui durent 15 minutes chacun, de toute façon. Il n'était pas question de les répéter dans le studio, il fallait être prêt, quoi. Donc mon métier, donc mon travail de producteur, c'était de m'assurer que l'ingé son avait tout de près, qu'on avait deux machines prêtes à tourner ensemble, l'un prendre le relais de l'autre, puisque malheureusement à l'époque, les bobines ne duraient que 14 minutes, donc il fallait les mettre en synchro et tout. Donc il fallait que les micros soient placés aux bons endroits, car il n'y avait pas possibilité de faire 50 prises. Et Fela a trouvé ça génial. Et il avait très peur, parce que il avait eu une expérience précédente avec Bill Laswell, où il n'était pas très content de ce que Bill Laswell avait fait d'un de ses morceaux, je ne sais plus quoi. Enfin, donc, l'idée d'avoir un producteur, voilà. Ouais. Moi, je lui ai dit, non, mais tu fais, ouais, pas de problème. Et donc, c'était de le mettre en confiance. Voilà. Et le lendemain, c'était génial avec lui. Il a fait son solo de sax et tout. Voilà. On a fait donc 3 titres en 3 jours, pratiquement.
Comment s'appelle l'album alors ?
Il s'appelle Teacher, Don't Teach Me Nonsense.
Ok. Ouais,
okay. C'est le titre des morceaux. Sinon, il y a un autre qui s'appelle Look and Laugh. Et puis le troisième s'appelle
Just Like That.
Ah oui, parce que en fait, c'est 3 morceaux, mais qui durent 25 minutes, 30 minutes et 22 minutes. Quoi.
Prenez-en de la graine, les jeunes.
Oui. Je sais même pas comment l'approcher, alors comment on peut s'écouter un extrait.
On va s'écouter un morceau.
Alors, l'extrait. Comment on peut faire, Wally?
Je te suggère d'aller carrément au milieu, parce que les morceaux de Fela sont de véritables symphonies, c'est-à-dire qu'il y a une très longue introduction instrumentale, et puis il ne commence à chanter que vers le milieu, quoi.
Ok. Est-ce que si je te dis entre les trois, est-ce que tu as une idée de duquel on pourrait
Teacher,
c'est parti. Et je laisse un tout petit, quelques secondes au début pour qu'on voit comme à quoi ça ressemble au début, puis après je vais au milieu. Allez, c'est parti. Teacher, don't teach me nonsense.
Enregistré à Paris. Y aller parce que là,
je mets le milieu, alors c'est parti. Kereke. C'est toute une expérience. Hein.
Et comment tu market une musique comme ça? All the wahala, all the
problems, all the things. C'est là qu'il commence à chanter.
On a 13 minutes.
Eh bien, il avait une réponse, celle-là. Il disait, moi, j'en ai rien,
ouais,
rien à foutre de ça.
Ouais.
C'est à la technique de s'adapter à ce que je fais.
Ouais.
On disait, mais c'est pas une question de technique, c'est une question que les radios, de toute façon, au bout de 3 minutes, c'est fini.
Il y a pas des radios édites, du coup, j'imagine, de Fela Kuti.
Non. Ouais. Ça, il les refusait totalement. Ouais. C'était pas question de sortir des radios édites.
Walidaz, pour terminer cette partie, passer à la dernière, qui sera certainement plus courte, parce que ça fait déjà quasiment 2 heures là qu'on enregistre.
Yes.
Ouais, ça passe
le
vite.
Temps,
hein.
Le temps passe vite.
Juste parler parce que il y a eu quelques collaborations en France. Là, Fela Kuti, ça s'est fait en France, mais je parle vraiment avec des artistes du coin vraiment. On va se concentrer surtout sur Alain Chamfort, qui est, parce qu'il n'y en a pas eu 3000 non plus des collaborations avec des Français. C'est certainement la plus marquante.
Oui.
Comment ça se passe? Pourquoi Alain Chamfort? Il y a eu 2 albums, c'est ça?
Oui.
En 1981-86, si j'ai pas de bêtises, un truc comme ça.
Il n'y en a pas 3. Non, il y en a 2, oui.
Ouais.
Oui.
C'est pour toi, c'est à la base, c'est pas les Français, c'est pas ton truc que j'ai envie de dire. Enfin,
non, c'est,
comment ça se fait qu'il y en a eu si peu de collaborations avec des Français?
Et puis Alain Chamfort.
C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très simple. C'est une question de disponibilité. Maintenant, la question, c'est on se rend disponible ou on se rend indisponible.
Ouais.
Et c'est vrai. Alain, d'abord, j'aimais beaucoup ce qu'il faisait.
Pour ceux qui connaissent pas Alain Chamfort, est-ce que c'est de la variété, c'est de la chanson française?
La variété,
oui, c'est la variété, oui.
Ouais.
Ok. Et moi j'aimais bien.
J'ai écouté dans un DLT.
On a déjà écouté Alain Chamfort, ça?
Bah moi j'ai passé, mais je pense que c'est quand on a fait l'émission justement avec François et tout, on passait des sons là.
Ok, ok.
Où il nous avait balancé du Jean-Pierre Castaldi et tout ça. Là. Okay. Je pense que à ce moment-là j'ai balancé le plus grand Chamfort, chapiteau. Okay.
Ouais. Pardon, oui.
Je l'ai compris après, hein, mais ce que j'entendais de ce qu'il faisait, moi, au moment où j'écoutais, c'est-à-dire c'était quoi, quand je faisais mon service militaire, un peu avant, un peu après, il avait un morceau qui s'appelait Géant, comme un géant, comme un géant, comme un géant, et je trouvais les arrangements, enfin je trouvais les harmonies, les mélodies vachement bien. Et bon, il y a eu ensuite, il a eu son énorme Manu Reva.
Ouais.
Avec Gainsbourg.
Alors, on s'écoute juste un extrait de Géant qui t'a marqué?
Oui.
Vas-y, Alain Chamfort, Géant. C'est pas mal, hein. Même les paroles sont cool.
Les paroles sont cool et la musique est chouette, hein, ça.
Chanson de daron, ça.
Ouais, de ouf.
Ouais.
Avec des harmonies, avec des modulations, des renversements d'accords, à la fois jazz, à la fois. Voilà.
Ça, c'est quelle année, ça?
Alors, c'est sur le même album, j'ai l'impression que Manu Reva pose en 79.
Ah ouais,
c'est ça.
Et Manu Reva, je le mets juste 30 secondes que tout le monde connaît, mais c'est cool aussi, en vrai. J'avance un peu.
Ce qui est marrant sur cet album, c'est, on le voit bien dans Spotify, c'est que Manu Reva, c'est 7 millions d'écoutes.
Ouais.
Et il y a des morceaux à 16,
16 000 sur le même album, en fait. Donc, il n'y a que un morceau.
Tout à fait. Ouais. C'était énorme.
Géant est quand même parmi aussi apprécié 600 000 écoutes. Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est très varié. Ouais, donc Alain Chamfort, ça te parlait déjà à la base.
Oui, ça me parlait déjà à la base.
C'est lui qui vient vers toi et tu dis oui parce que ça te plaît.
Oui, alors c'est drôle. C'est que surtout au moment où je commençais à faire mes armes en tant que musicien de studio, et il y en avait qui, pour se foutre de ma gueule, me dit « Ouais, Wally, quand tu sauras faire ça, tu pourras jouer avec Alain Chamfort. Tu vois, parce que bon, genre... Et donc moi, Alain Chamfort, ça me traînait derrière ma chaîne pendant que je faisais mes séances en France, quoi, tu vois. Et donc d'apprendre qu'il avait envie de travailler avec moi, je me dis bah voilà, bah alors donc
ça y est, je l'ai fait.
Je le fais. Non, il se trouve que c'est les Gibson Brothers, toujours de Daniel Van Gerwen, qui me dit, tu sais quoi, il y a Alain qui aimerait travailler avec toi. C'était après le premier Chris Jones. Ouais. Et à l'époque, il vivait avec Leo. Okay. Et c'est tous les deux, ils adoraient cet album de Chris Jones qu'on avait fait dans Private Life. Pour eux, c'était extraordinaire. Et c'est pour ça que Alain a tenu à ce qu'on travaille ensemble. Mmh. Et donc, il m'a proposé de le rejoindre à Los Angeles, travailler avec Gainsbourg et lui.
Okay. Donc, que sur l'album que vous allez faire ensemble, il s'appelle comment cet album ?
Amour Année Zéro.
Amour Année Zéro. Oui. Et donc, toi, tu coproduis en fait ?
Je coproduis avec Alain. Et Gainsbourg est notre parolier.
Okay.
Donc, nous étions tous les trois ensemble dans une maison qu'on nous avait louée pour la cause à Los Angeles. Alain était avec Leo, Serge était avec Bambou, qui finalement d'ailleurs a donné son nom à
premier morceau. Exact. Voilà. Tu étais avec ta femme, toi aussi, ta compagne de l'époque?
Eh bien non, à l'époque, j'étais pas encore venu. Elle est venue après nous rejoindre, mais il n'y avait pas tout le monde.
Ok. Il y a un morceau sur cet album qui te reste encore. Alors je vois, il y a Bambou, Poupée, Chasseur d'Ivoire, Amour Anne Zéro. Ah mais toi c'est quoi le morceau que t'aimes beaucoup d'Az? Il est sur cet album ou pas?
Non, c'est sur
l'autre que vous avez fait ensemble. Voilà. Ok.
Moi, sur celui-là, c'est plutôt Malaise en Malaisie que j'aime beaucoup.
Et ouais. Ben, on peut s'écouter Malaise en Malaisie. Non,
on reste tropical.
Ça, c'est Gainsbourg qui a écrit ?
Oui.
Donc, c'est que des calembours et...
Exactement.
Et des anagrammes.
Cette voix de tête.
Des palindromes.
Il est toujours comme ça, Alain Chamfort, ses voix de tête à fond.
Ça a changé maintenant.
Ah ouais,
il ne peut plus. Mais à l'époque, tu faisais beaucoup de voix de tête, en effet. Ouais.
Et alors, la collaboration avec Gainsbourg, j'ai déjà entendu dire que c'était... Ça n'avait pas collé humainement, j'ai l'impression.
Gainsbourg, c'est Gainsbourg.
Gérard, c'est Gérard.
C'est un truc musical ou humain ?
Non, mais attends. Tant qu'on était là-bas, tout allait très bien. Au contraire, même, je dirais que c'était même... non, parce qu'il n'était pas... Bon, personne ne le connaissait là-bas.
Ouais.
OK, donc tant que...
C'est le culte autour de lui quand il est ici qui le rend ingérable, en fait.
Voilà, c'est tout. Ouais. Je ne connais plus, carrément.
Je
ne connais plus.
Ah,
il se la racontait, quoi, on peut le dire.
Donc, voilà. Ouais. Donc, je trouvais ça pas très cool. Mais c'est tout, hein. Je n'en veux pas spécialement, machin. Voilà.
T'avais été, alors j'imagine que tu le connaissais de nom, etc. La collaboration, t'as été étonné par, il avait une qualité évidente. Pas forcément. C'était un besogneux, c'était un génie, c'était.
Non, ce qui me scotchait, c'est bien le mot de le dire, c'est sa manière de travailler. Il fallait donc la piña colada dès le départ, à 8h du mat. Et il avait toutes les chansons, enfin, il avait 8 feuilles de papier, il avait 8 chansons à écrire. Toutes devant lui, et il progressait en même temps sur toutes les chansons.
Ah ouais. Ok, ça c'est pas mal.
Et ça paraît bizarre, alors qu'en réalité c'est tout à fait normal, c'est même la meilleure façon de procéder.
Ah ouais?
Bah oui, puisque ça faisait que s'il séchait, s'il bloquait sur une chanson,
il passait à l'autre. Alors ouais, mais du coup, comment
au lieu de rester sur
ouais,
une
de
seule,
bloquer
quoi.
Sur une.
Bah oui.
Ouais, mais du coup, tout se ressemble un peu, non? Enfin, quand.
Ben pas nécessairement. Quand tu fais un album, finalement.
C'est 8, quand même. C'est...
Attends, mais quand tu fais un album, ouais. Comme on le faisait à l'ancienne, on travaillait ouais. De front sur tous les morceaux en même temps.
Hein. Ouais, d'accord.
Tu faisais venir le percussionniste, il faisait les percussions sur les 8 morceaux, ensuite il s'en allait, ensuite.
Ouais,
donc okay. Effectivement, ça donnait un côté quand même assez homogène à l'album.
Ouais, c'est ça. C'est la même couleur.
Voilà.
Ouais.
Mais pour autant, ça n'empêchait pas des morceaux d'être différents les uns des autres quand même. Hein, si on... De toute façon, Gainsbourg, c'est Gainsbourg. Dans sa manière de travailler, c'est la patte Gainsbourg, elle se reconnaît, ça s'entend dans les paroles qu'il fait. Quoi.
Ah bah là, oui, là, tout de suite. Hein.
Voilà, que ce soit Bambou, que ce soit Chasseur d'Ivoire. Bah, voilà.
Vous rempilez pour un deuxième album avec un chant fort en 86. Tendre Fièvre, c'est ça
hein. Oui, Tendre Fièvre. Alors là, ça se passe.
Et là, alors, il y a le morceau de Daz dessus. Raconte Daz.
Eh ouais, le plus grand chapiteau. Un morceau, moi, c'est un de mes plaisirs coupables. Ah. J'en avais parlé justement dans une émission qui s'appelait Plaisir coupable. J'ai dit, bon, voilà, moi, ok, j'ai grandi avec le Wu-Tang et Mobb Deep, mais il y a un morceau d'Alain Chamfort. Donc déjà, tout le monde te dit, Alain qui? Je fais, ok, bon. Et après, quand ils comprennent Alain Chamfort, ils font, bah oui, Manu Reva. Tu dis, oui, mais non, pas celui-là.
Ouais.
C'est un morceau que je trouve il est assez désuet. En fait, je trouve que la musique est trop cool, notamment au refrain justement, il y a une guitare slapée et tout. Tu vois, t'as vraiment un côté funk sympathique, mais les paroles sont de mon point de vue cataclysmiques, surtout en 2024. Tu vois, parce que ça essentialise la femme, t'es ma féline, tu fais des acrobaties, j'adore. On est dans un cirque. En gros, le truc c'est quand je suis avec toi, j'ai l'impression d'être au cirque. Tu vois, t'es acrobate et on fait des singeries ensemble. Tu vois.
Ça a mal vieilli.
Bon, ça a vieilli. C'est dans son jus. Tu vois. Mais en fait, je sais pas pourquoi je kiffe ce morceau.
Ok.
Mon daron, je me rappelle, il le fredonnait quand j'étais petit et du coup c'est resté. Tu vois. Et
t'as découvert avant cette émission quoi? A bossé dessus.
Incroyable. Et donc voilà, je regarde la fiche Wikipédia, je me dis, mais ah, il a bossé avec Alain Chamfort, je me dis, mais attends, sur quel album? Et là, je vois Tendre Fièvre, je fais, attends, mais Tendre Fièvre, c'est pas là où il y a mon morceau à moi? Et je vois que si, et je fais, ah, oh, ben, c'est incroyable!
Ouais.
Je pourrais dire ça à mon père.
Et bah écoute, on s'écoute un extrait, le plus grand chapiteau, Alain Chamfort.
Allez.
Il refait la note.
Qu'est-ce que tu me joues comme tout? Je ris, j'applaudis tes numéros.
Derrière, c'est presque le boléro de Ravel.
Ah oui, il y a quelque chose.
Un truc, hein. Tiens, attention, attends. C'est au refrain où tu dis ah ouais.
Et c'est marrant, dans la voix et dans le style musical du refrain, je trouve qu'il y a un côté très... comment s'appelle-t-il, le compère de Souchon?
Oui, c'est ça.
Woolsey.
Ouais, Woolsey. Il y a un côté très Woolsey.
Tout à fait. Ouais. Voilà.
École-là,
c'est,
ouais.
On est dans cette école, ouais, ouais. Dans cette veine, cette manière de faire certains arpégios, certaines chutes de mélodie. Très, très, très Woolsey, entre Woolsey, Souchon.
Parle bien devant ton micro, Wally.
Oui.
Est-ce que tu as pu mettre un peu ta patte musicale quand même sur ces albums?
Elle est là, hein, ce que tu entends, c'est moi. Hein.
Oh, c'est génial. Ah, moi, je suis refait.
Les claviers, tout ça, oui. La basse, je l'ai faite au synthé et tout, voilà. Ouais. Bon.
Moi, je suis content. Voilà. Moi, je le dis. Merci pour ce travail.
Ben voilà.
Bon, je crois qu'on a fait un bon tour sur une grosse partie de ta vie musicale.
Oui.
Terminons avec une dernière partie. On va parler à la fois un peu d'aujourd'hui, mais aussi d'une forme d'héritage. Tu vois, par exemple, moi, ma première question, c'était en filigrane depuis tout à l'heure, hein, mais parlons-en clairement. Financièrement, comment tu vis toutes ces années de 79 à quasiment aujourd'hui, tu vois?
Ah, c'est pas compliqué.
Ouais.
Les droits d'auteur. Ouais. Et c'est pas pour rien que j'ai consacré une bonne douzaine d'années à la défense du droit d'auteur et de sa gestion dite collective. Oui, je vis essentiellement de mes droits d'auteur. Heureusement que les droits d'auteur existent.
Mais qui sont pas sur les choses sur lesquelles tu as travaillé, on a bien parlé. Voilà.
Tout à fait d'accord. Elles sont sur une toute petite partie, à savoir essentiellement Level 42.
Ah.
Eh ouais.
Okay. Et justement, ouais, toi,
Trouvé...
tu t'es un peu fait avoir sur pas mal de deals, bizarrement.
Bah, c'est pas compliqué. Tout ce que j'ai fait à Compass Point, en dehors de mes albums propres, je ne touche pas de droit d'auteur.
Juste l'avance, c'est tout.
Même pas. Non.
Ah non, c'était pour l'édition, ça. Ouais.
Non. Tout ce que j'ai fait avec Grace, Joe, les Talking Heads, tout ce monde-là.
On payait à la session et voilà.
J'ai payé à la session, c'est tout.
Ah ouais. Alors que là,
mélodie
cool,
sur Libertango.
Que dalle.
Que dalle. J'étais payé à la session.
C'était quoi le prix d'une session?
Alors, c'était sur un nombre de chansons.
Et ça allait crescendo au fur et à mesure des années, c'était mieux en mieux payé.
Ah non. C'était à peu près le même prix qu'on. Ça n'a pas duré très longtemps finalement ces enregistrements-là. C'était les premières parties des années 80. Aux alentours de 85, c'était fini. Hein. Je suis resté. Pourquoi? Parce qu'il y avait autre chose qui se passait. Il y avait les musiques de films, comme Le baiser de la femme araignée, tout ça. Il y avait mes propres albums. Moi, je prenais du temps à faire mes propres albums. Mmh. C'est ce qui fait que toute cette durée aux Bahamas. Et pendant ce temps-là, je faisais des navettes avec Londres pour Level 42. Mmh. Et Level 42, j'ai eu la chance, encore une fois, d'être producteur et compositeur, co-compositeur avec Level, de leur plus gros tube.
Et ça permet vraiment de vivre quand t'as des gros tubes.
Ouais. Eh oui. Et ça, c'est une chose que j'ai découverte bien plus tard et que je suis toujours heureux de découvrir. C'est-à-dire que quand t'as des gros tubes, eh bien, ça devient la bande-son de toute une génération. De sorte que ça ne meurt jamais. C'est-à-dire que chaque fois, c'est réutilisé, ça repart dans les jukebox, ça repart dans les
synchros. Encore aujourd'hui, tu touches les droits d'auteur corrects sur...
Ouais. Absolument. Surtout quand il s'agit de gros tubes internationaux. On ne parle pas seulement de choses... c'est pas des tubes...
locaux.
C'est le monde entier. Japon, Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Allemagne, les États-Unis, c'est tout ce monde-là.
On n'est pas au point de Patrick Hernandez avec Born to be Alive, c'est quand même pas ça non plus. Mais pas loin.
On n'est pas loin de ça. Ah, c'est-à-dire qu'il suffit d'un tube pour faire vivre quelqu'un, ça c'est clair. Et Born to be Alive, effectivement, de Patrick Hernandez, ça le fait vivre. Et ben, il vaut mieux avoir écrit ça que n'avoir rien écrit. Donc on peut faire un seul tube avec Born to be Alive et en faire 150, mais de moindre niveau. Voilà. Ravel a écrit des choses extraordinaires. Le Boléro a rapporté bien plus que rien de tous les autres qu'il ait jamais écrit.
Si ça permet de plus penser au fric et après faire ce qu'on a envie de faire.
C'est
vrai.
Mais c'est justement ça le but. Le but du droit d'auteur, et c'est pour cela que c'est important, et c'est pour ça que je me bats et Olivier en est témoin, c'est que ça permet justement aux créateurs d'être libres et de pouvoir travailler sans être sous la pression du cachet à devoir toucher pour pouvoir simplement survivre et payer son loyer. Voilà.
Et tu t'es projeté sur ce que ça aurait pu te rapporter en estimation si justement tu avais eu cette maturité en fait business à l'époque où t'étais à Nassau.
Mais de toute façon, en réalité, tu poses une très bonne question. En réalité, je n'aurais rien pu y changer.
C'est pas chez les anglo-saxons, ça se fait comme ça.
Ça ne se faisait pas à cette époque de toutes les manières.
Okay.
Aujourd'hui, ça se fait.
Oui, donc c'est pas un acte manqué en fait.
C'est-à-dire que mon cas n'est pas unique. Toute une génération de musiciens dits de studio qui, comme moi, inventaient sur place, en studio, leur partie, se sont tous fait spolier.
C'est-à-dire on les payait à l'acte et puis basta, quoi.
Basta. Je dis bien comme moi, c'est-à-dire des gens qui ne se contentaient pas seulement de faire des accords, machin, tout le bazar, mais qui carrément apportaient carrément la fiche signalétique, la carte d'identité d'un morceau. Ouais. Alors que par un gimmick, par un thème, par quelque chose qui vient par-dessus, qu'on dit, ah ouais, rien qu'avant même d'entendre le chanteur, on dit, ah ouais, je reconnais le morceau.
Ouais. Bah c'est les trucs, c'est aussi le modèle à la Motown, à la Stax, etc., où il y a beaucoup de gens qui ont participé à des morceaux immenses et qui ont peut-être pas récolté exactement.
On est tout à fait d'accord.
Bah, tous les icônes qui tournaient avec Dr. Dre, avec Warren G à l'époque. Les lignes de basse.
Encore c'est plus tard, ça, déjà.
Ouais, mais c'est les années 80.
Ah, oui. Alors, moi, avec la spécificité, c'est que moi, j'utilisais le synthétiseur. Le synthétiseur me permettait effectivement de faire quelque chose qui allait bien au-delà d'un simple accompagnement. Et j'ai toujours eu l'idée d'une...
Il a son identité, en fait.
Voilà. Que ce soit avec Robert Palmer, Addicted to Love, que ce soit avec Foreigner, que ce soit... J'ai toujours eu l'envie, pas simplement d'être en accompagnement derrière, mais d'être un complément à la mélodie principale. Donc j'étais un co-top liner, comme on dirait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est possible de toucher de l'argent à tous les niveaux, parce que grâce au split, au paiement, à la source, on peut splitter les revenus. Il y a la gestion collective qui marche également. Il y a possibilité que chacun s'y retrouve. À l'époque, c'était pas possible.
Avec la complexité administrative, on en a parlé avec Olivier, que ça a entraîné. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a des outils pour essayer de répartir l'argent.
Tout à fait.
Tu peux le faire, mais il faut que la personne qui produise souhaite aussi le faire comme ça.
Il faut le documenter. Voilà. Et c'est au moment du dépôt qu'il faut que les choses soient claires, que les partages se font de gré à gré entre les différents ayants droit.
On vous renvoie, c'était l'épisode, je crois, 73, un truc comme ça avec Olivier Delevingne, si vous voulez en apprendre un peu plus sur tous ces sujets. Alors, t'es encore actif, hein, mais on parlera juste après de ce que tu fais aujourd'hui, mais est-ce que t'as le sentiment d'avoir une forme d'héritage à protéger musical, y compris d'un point financier, mais pas que d'ailleurs, hein,
Non, mais tu veux dire quoi? C'est-à-dire faire en sorte que mes musiques perdurent
ou... Oui, notamment ton travail solo. Mais tu vois, je prends l'exemple d'Echoes. Pourquoi Echoes n'est pas sur Spotify? Pourquoi Echoes n'est pas sur les plateformes?
Comment ça se fait?
C'est aussi simple que simplement la chose appartient à celui qui met l'argent pour produire le disque. Ça s'appelle le producteur. Bon, à l'époque, c'était Blackwell, c'était Island Records. Sauf que Island Records a été vendu à Polygram, qui a été vendu à Universal. Donc aujourd'hui, Universal est le propriétaire de Echoes.
Et ils peuvent pas
ils en font ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident de le mettre ou de ne pas le mettre en vente.
Il peut pas y avoir de discussion. Tu discutes avec eux ou pas?
D'abord, avec qui tu discutes chez Universal?
Et de deux,
même si tu discutes...
Passez-moi Google.
Voilà.
Ouais.
Non, ils font ce qu'ils veulent. Ceci dit...
C'est terrible, ça, quand même, comme constat, quoi.
Oui,
c'est ton œuvre, quoi.
Oui, mais c'est vrai de tous les artistes qui ne sont pas producteurs, c'est-à-dire qui ne sont pas propriétaires de leur bande.
C'était le cas de MC Solar, très récemment, qui est aussi chez Universal, d'ailleurs. Et
c'était le cas de la plupart d'entre nous. C'était le cas de Prince, c'était le cas même des Beatles, c'était le cas de toute une période d'artistes qui n'étaient pas propriétaires de leurs œuvres. Dès lors qu'il y a une maison de disques qui a produit le disque...
Ça lui appartient.
Ça lui appartient. Eh oui.
Et il n'y a aucun recours, quoi.
Ben non. Le seul recours, c'est de racheter les bandes à la maison de disques, si elle veut bien les vendre.
Ouais, ok. Oui, donc il n'y a pas de recours.
C'est une propriété.
Il n'y a pas une histoire de durée à partir de laquelle ça revient de droit à l'auteur?
Aux États-Unis.
Ah, ok.
Mais pas en Europe.
D'accord.
Ouais, puis il faut renvoyer toujours il faut bien séparer les différents droits.
Au bout de 35 ans aux États-Unis, les masters reviennent.
Oui, c'est ça.
À l'artiste.
Et pas en Europe.
Pas en Europe.
Il faut toujours séparer ce truc de... là, on parle vraiment des masters, c'est-à-dire de l'enregistrement lui-même, mais par contre, le droit d'auteur, c'est-à-dire que le fait que ça soit ta composition, tu peux l'exploiter, tu peux, etc. Enfin, ça, c'est quand même... ça t'appartient.
Oui, moi, la question, c'est...
Mais parce que je suis dans le droit anglais. C'est-à-dire que j'ai signé chez Island Music. Donc, c'est le copyright qui s'applique. C'est en cela que je suis un tout petit peu atypique. Je me bats pour le droit d'auteur, alors que en réalité, je suis moi personnellement sous le régime du copyright, qui sont deux régimes différents.
Je connais pas bien.
Le copyright permet de récupérer tes œuvres, ton publishing, au bout d'un certain temps. Le droit d'auteur, non. Normalement, quand tu signes pour ce qu'on appelle la durée du copyright, c'est-à-dire pour jusqu'à 70 ans après ta mort. Eh oui. Ouais. Eh oui. Ça, c'est le droit français.
Ok. Et donc, ton album,
donc mes
solo, le Echoes, là?
Oui, j'en ai le publishing.
D'accord.
J'ai le droit d'auteur.
Ok, donc c'est déjà ça.
Oui, que j'ai pu récupérer mes éditions et les placer sous une administration autre. avec une avance supplémentaire et tout.
Si c'est, après, c'est leur job de l'exploiter.
Exactement,
etc.
Et puis de me la retourner quand c'est fini. Par contre, les masters, j'ai aucun droit dessus.
Ah ouais, c'est ouf.
Et comment ça se passe, par exemple, lorsque... Bon, c'est un truc qu'on dit souvent, on prend souvent cet exemple pour toi, c'est, mais en 1990, il y a Massive Attack qui te sample.
Oui.
Qui sample un morceau de des causes.
Oui. Mambo.
Mambo. Pour leur morceau Daydreaming, Massive Attack.
Sur l'album Blue Lines.
Là, étant donné que... Bah, ils samplent directement le master, enfin le, oui. le morceau, oui. T'as rien touché.
Si, au contraire. Okay. Non, non, ah, ça c'est très très bien.
Là, c'est le droit d'auteur qui s'applique, là.
Non, non, les deux. Okay. Puisqu'effectivement, il y a du droit d'auteur, mm-hmm. et il y a le master, car ils ont carrément pris...
Donc là, tu prends rien sur le master, mais par contre, sur le droit d'auteur, si.
Alors, sur le master, je prends une partie.
Ah.
En tant qu'artiste.
Okay.
Puisque je touche des royalties d'artiste sur mon disque. D'accord?
Ouais.
Donc, toute exploitation pleine ou partielle du master, je touche. C'est infinitésimal. C'est la partie droit d'auteur qui est bien plus intéressante. Effectivement, je touche. Alors, pour ce qui est de Massive Attack, ça s'est passé tout à fait de manière réglo, vu qu'on avait exactement le même éditeur. Chris Blackwell, Island Music.
C'est pour ça qu'ils avaient choisi le truc ou...
Non.
C'est vraiment du hasard
C'est mieux que du hasard. Ils étaient tombés amoureux de Mambo. Et ils démarchaient les maisons de disques avec Daydreaming. Ils démarchaient les maisons de disques avec Daydreaming.
Donc c'était ta musique qui était utilisée pour...
C'était leur truc. Et dans Daydreaming, si tu vous écoutez, ils entendaient dire Massive. Massive. Leur nom vient de Daydreaming.
Ah ouais, d'accord.
Bah, on
ah oui,
va...
donc t'es à la genèse du...
C'est Massive. Sans jamais les avoir rencontrés.
On va écouter... Ouais, parce que ça, ils ont pas cherché à te voir directement. Après, c'est du sampling, hein, mais... Ouais.
Mais par contre, quand t'as appris qu'ils voulaient sampler, donc t'as reçu,
oui,
t'as été notifié.
J'ai été notifié, non seulement notifié, j'en ai parlé avec mon éditeur qui m'a dit, tu sais quoi, Wally, il y a un groupe de Bristol qui a envie d'utiliser. Et j'ai dit, ah, ok, très bien, point barre. Puisqu'à l'époque, ils n'étaient pas.
Oui.
C'était un sample parmi d'autres, quoi, tu vois.
Ouais.
Et ce n'est qu'après que j'ai compris la magnitude de ce qu'ils faisaient, quoi.
S'écoute un extrait de Daydreaming, Massive Attack. Tu nous diras ce qui a été samplé exactement d'ailleurs.
Ah bah c'est pas compliqué, il y a pratiquement tout.
attends, on va faire un truc cool.
Bah écoutez,
attends,
Mambo,
on va prendre, on met d'abord Mambo et après on met le Massive Attack. On va faire
sampler,
comme ça.
Sampler alors. Dans
attends, on fait ça. Ok, on s'écoute un extrait de Mambo.
Massive.
Donc effectivement, on entend bien dans ton morceau le Massive.
Massive, voilà. Oui. Là, tu devrais avoir même une royalty supplémentaire.
Ah bah, c'est sûr qu'il s'appelait comme ça avant, non, c'est pas tu penses que vraiment c'est...
Ah non, mais c'est eux qui l'ont trouvé Massive. Et ils aimaient ce côté massif de la chose. Et c'est pour cela qu'ils ont utilisé ça et qu'ils ont mis carrément...
C'est avec ça qu'ils démarchaient les maisons de disques.
Ils démarchaient les maisons de disques.
Ils n'avaient même pas d'identité encore.
Ben oui. Et au moment où ils le font, quand ils approchent Island ne savait même pas que c'était...
Sampler.
Que c'était mon album, c'est eux qui l'ont dit, mais c'est de Wally Badarou. Ah ouais, c'est vrai, c'est là que Island.
Ah bah oui, chez nous.
C'est chez nous ça.
Non, Daydreaming, alors de Massive Attack.
Ah bah oui, là oui.
Bon, c'est la même chose pendant.
Bah, ils ont changé la rythmique là.
Bah, ils ont rajouté.
Ouais, ils ont rajouté des trucs là.
Massive.
Massive. Massive. Massive. Massive. Boom. Boom.
Bon, effectivement, c'est ton, morceau, hein. C'est ton morceau.
Voilà. Alors, attendez, les mecs. vous voulez savoir un peu mieux la vérité?
Vas-y.
Au départ, ce n'était pas du tout censé être aussi massif.
Ah oui.
Eh ouais. Au début, j'avais comme idée de faire quelque chose très proche de ce qu'un certain Timmy Thomas avait fait sur un morceau qui s'appelle Why Can't We Live Together? Ça dit quelque chose, ça? Des années 70. Ouais. Why can't we live together?
Ouais, ouais,
une sorte de petite boîte à rythme.
On va trouver ça. Ouais, Timmy Thomas, vrai. Vas-y.
Timmy Thomas.
Je mets un petit extrait.
Why can't we live together? Voilà.
Il a été repris par Drake.
C'était repris par Drake, ça? Ok.
Hotline Bling.
Oh, ok.
Écoutez, ça, tu
vois. Il y a le synthé qui va arriver. Ah, exact. Ah, mais c'est un méga classique, ça.
Ah oui. C'est énorme.
J'aime un peu.
Oui, mais comme tu l'entends, la boîte à rythme, elle est toute petite.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et donc voilà.
C'est que, cusse, ouais.
Voilà. Donc c'est ce que je voulais faire. J'arrive en studio avec ma boîte à rythme, un Lindrum, et pendant que je suis en train de brancher mon prophète et tout le bazar, l'ingénieur du son s'amuse avec les boîtes dans le studio, l'harmonizer et tout le machin. Il en fait un truc énorme. Donc c'est l'ingénieur du son.
Qui n'est pas co-auteur.
Qui n'est pas co-auteur.
Donc lui aussi.
Il devrait toucher.
Ah ouais.
Ah ouais. Et ouais.
Donc ça se trouve, quand lui, il écoute Massive Attack, il se dit, ce truc-là, à son plein truc, c'est moi.
Exactement. Et on en a parlé après.
Ah ouais.
Mais bien sûr. Et à cette époque-là, on ne payait pas en droit d'auteur l'ingénieur du son. C'était qu'un ingénieur du son. Donc il s'était amusé dans l'idée de « je ne fais que m'amuser ». Et la partie où moi j'interviens, c'est je dis mais c'est très bien, finalement,
ce que
tu fais, on va le faire comme ça. D'où l'idée de faire toute une plage où il n'y a que la rythmique. Car au départ, je n'avais pas du tout cette idée-là. Moi, j'avais l'idée de très vite introduire des mélodies et tout. Mmh. J'ai dit mais ce truc-là est énorme. Il faut que ça tourne tout seul, quoi. Mmh. Rien que ça, c'est déjà de la musique. Mmh. Hein?
Bon, en tout cas, ça, ils ont compris ça, Massive Attack.
Ah, ça, ils l'ont compris. Non, mais j'avoue que pour moi, ça, c'est l'un des trucs dont je peux vraiment être fier. C'était ce premier album de ce groupe, qui en plus est côtoyé l'un de mes héros, qui s'appelle Billy Cobham. Je sais pas si vous voyez.
Bien sûr, voilà. Bien sûr, Billy Cobham, à fond.
Sur le même album, quoi, Blue Lines.
Ouais.
Je dis ça. Pff, bon. Ouais.
Aujourd'hui, tu collabores beaucoup moins, tu te concentres sur tes propres projets, alors que ce soit vraiment purement musicaux, albums solo, on peut dire que t'es en préparation de quelque chose.
Oui. Et vous allez retrouver le chanteur en moi.
Ah, ok.
Ah, je prépare des chansons.
Il y a aussi.
Ce sera vraiment chanteur, ce sera pas vocalizer cette fois-ci.
Oui. Parce qu'il y en a un où j'ai vocalisé récemment.
Ok.
Et là, ce sera vraiment chanteur, oui. Là, j'y vais, mais alors, je me mets à nu.
Ah ouais?
Ah ouais.
En français, anglais?
En anglais.
En anglais, ok. Oui.
Il y a une, t'as aussi un projet, enfin, qui a pris forme, mais pas complètement, d'après ce que j'ai compris, autour de la culture africaine.
Voilà, donc j'ai fondé l'Académie de la musique africaine il y a très exactement 10 ans, en 2014, et c'est en train de prendre son essor en ce moment. C'est l'idée de faire une association, donc loi 1901, mais qui en réalité couvre toute l'Afrique. Donc c'est une académie panafricaine, mais pas seulement toute l'Afrique, ça inclut également les diasporas, aussi bien historiques, c'est-à-dire toute l'Amérique, du nord au sud, et les diasporas contemporaines, c'est-à-dire tous les Africains qui vivent à l'étranger. Donc c'est un truc énorme.
Donc c'est mondial, quoi.
Mondial.
Globalement.
Voilà.
Okay.
Et nous avons organisé des prix qui ont eu lieu cette année, les premiers prix de l'Académie de la musique africaine. Et petit à petit, nous tentons donc d'agréger avec Berklee College of Music, avec toutes les institutions pédagogiques, avec les historiens, avec les musicologues, tenter de créer toute une base de données, créer toutes sortes de... Voilà, on veut pas
forcément des cours, des choses comme ça, avec des lieux physiques et tout, mais plutôt...
Eh bien, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur l'existant. Il existe déjà des écoles dans toute l'Afrique et notre idée, c'est de fédérer un peu tout ce monde-là.
De mettre à disposition des ressources, plutôt.
Voilà. Et de flécher vers les écoles, vers les endroits qui sont intéressants pour tout un chacun. Donc, c'est un centre de ressources, aussi bien qu'une valorisation, c'est-à-dire que toute chose estampillonnée Académie de la musique africaine est de la valeur, quoi. Mmh. Voilà.
Ça m'amène à peut-être la dernière question, pour s'arrêter là-dessus. C'est, est-ce que tu as l'impression d'avoir laissé une trace en France et en Afrique? Je sépare les deux.
C'est compliqué à dire, il n'y a que l'avenir qui dira. Moi, et très honnêtement, je ne sais pas si je dois vraiment me préoccuper de ça.
C'est vrai. C'est quand on est musicien, artiste, de se dire j'ai une certaine résonance dans une société, on parle de ma musique, de mon œuvre, pas pour un truc d'ego, hein, mais un truc de. Parfois, ça permet de se dire aussi peut-être qu'elle a du sens pour beaucoup de gens, cette œuvre, et j'en suis fier. Ça peut être aussi.
Bien sûr.
C'est pas forcément mauvais,
Bien sûr. Mais la question pour moi, est-ce que c'est une chose qui va durer? Est-ce qu'il n'y aura pas une traversée du désert, comme toute chose? Et qu'est-ce que les gens retiennent de ce que j'ai fait? On n'a pas du tout parlé de mon deuxième album ici ce soir, qui est Words of a Mountain.
Vas-y.
Qui, à mon sens, est plus connu en France par le français que mon premier album. Le premier album, High Life, Mambo, tout ça, c'est plutôt un succès plutôt underground qu'il a connu. En Afrique, ça a été énorme. Pour des raisons que l'on sait, en Angleterre, Chief Inspector, Mambo, Massive Attack, et même aux États-Unis. Alors qu'en France, c'est Echoes et plus. Alors que Words of a Mountain a eu un certain succès à cause d'un morceau qui s'appelle Darkstein Angels, qui est un gros problème, mais à la fois, tu veux le passer?
Oui, parce qu'en plus, il est disponible sur Spotify, cet
Exactement,
album-là.
Voilà.
Oui, bien sûr.
Voilà, tu peux avancer.
J'avance un peu.
Oui. Voilà, c'est bon.
Parce que tu sais, j'ai écouté l'album en préparant l'émission. Oui. C'est un album de musique électronique de son époque, je trouve. Tu sais, avec justement, là on l'entend avec ses voix de synthétiseur, oui. etc. Oui. Moi j'aime beaucoup le Ayers Rock Bubbles Eyes, par exemple, comme morceau. Oui. C'est un des préférés de l'album.
Oui.
Mais il y a vraiment, il y a plus cette patte du Wally qu'on connaissait d'avant, je trouve.
Exactement. Je l'ai faite pour justement me dissocier et ne pas me laisser emprisonner dans une chose. J'avais très peur que Echoes me stigmatise quelque part, qu'on attende de moi la chose que normalement l'artiste africain, black, machin, tu vois, le rythme et tout le bazar. Là, cette chose se voulait un vrai départ, c'est-à-dire que quand tu écoutes ça, tu dis, mais attends, c'est pas possible, c'est pas le même artiste.
Bon, là j'aurais presque dit un truc un peu là, Jean-Michel Jarre, ou ce genre de délire,
tu aurais dit ça,
toi. Ouais.
Eh bien, c'est drôle. Je vais te dire pourquoi je voulais qu'on en parle. C'est que, en dehors de du son de la voix, la mélodie en elle-même, les arrangements, étaient considéré par beaucoup de gens comme de la véritable musique classique. Mmh. À telle enseigne que lors du référendum sur Maastricht en 1993, le Front National de Jean-Marie Le Pen et l'UDF de Giscard d'Estaing ont utilisé...
C'est vrai ce morceau?
Ce morceau.
C'est ça, je me disais, j'ai déjà entendu.
Oui. Ils l'ont pas utilisé longtemps.
Ouais.
En tout cas, pas le Front National.
Ouais.
Ils se sont rendus compte de la méprise. Et pour moi, c'est ça le plus important. C'est de montrer que c'est Lascar. Voilà. Ils se sont trompés quand ils ont compris, quand ils ont vu. Et s'il y a un moment de fierté, c'est celui-là.
Tu vois ce que je veux dire? Front National.
Voilà.
Ouais. C'est que les gars, ils pensaient que.
Voilà.
Ok.
Voilà.
Tu veux qu'on mette un autre extrait?
Mais attends, Darkstein Angels, là, donc c'est pas un motif de classique que t'as refait?
Pas du tout.
C'est une compo originale.
Une compo originale, mais que les gens étaient persuadés d'être dans le domaine public, parce que c'était du classique, c'était du répertoire franco-français.
Bon. C'est vrai que la mélodie, elle grave quelque chose. Ouais.
Et donc, ce morceau a été très utilisé dans les génériques sur Europe 1, sur France 2, tout ça. Donc, son temps a eu. Donc, pour la France, c'est ça, Wally Bedaro.
Ouais, donc c'est-à-dire aucun rapport. C'est un album de la distanciation que les gens t'identifient par ce truc-là, quoi.
Ouais,
c'est marrant.
On peut, si tu veux, parce que c'est vrai qu'on a peu parlé de cet album, on peut écouter un autre extrait. Moi j'avais mis de côté Ayers Rock Bubble Eyes.
Oui,
je sais pas si
tu veux.
Pas.
Oui.
C'est paisible, hein. C'est...
Ah, c'est sûr.
C'est Ayers Rock, hein.
Là, c'est ma cam, tu me mets des nappes, un arpégiateur, un mode un peu synthwave à la collège. Je sais pas si tu vas à collège. Mais voilà, c'est mon délire. Est-ce que, eh bien, alors, faut s'attendre à quoi pour le prochain album, Wally? Quel Wally, okay, à quel là, Wally on aura le droit?
Là où on ne l'attend pas.
Des chansons.
C'est vrai?
Alors, rien que ouais, ça,
mais,
tu vois.
Mais quel style, du coup?
Ah, mais justement. Je peux pas trop dévoiler parce que il y en a pour tous les goûts.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Il y a des choses africaines, il y a des choses carrément ésotériques, il y a de tout.
Et tu seras sur un format qui sied aux plateformes avec des chansons de 2 minutes 3 ou
oui.
Tu pars sur des... Ouais.
Oui, il y aura des versions courtes.
D'accord. Ok.
Il y aura des versions courtes.
C'est pas la meilleure note sur laquelle finir, mais en fait, j'avais ça en tête depuis, je m'étais dit qu'on pourrait le passer. En fait, non, j'ai envie vraiment qu'on en parle, parce que t'as parlé de cette histoire avec le Front National.
Oui.
Comme quoi c'était une espèce de victoire pour toi. Moi, je me suis quand même dit, je te dis honnêtement, je me suis fait une réflexion, c'est que je me suis dit, ce type a une carrière hallucinante. Assez rare chez un Français. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont une carrière telle. Et je me suis dit, pourquoi on n'en parle pas plus? Et je t'avoue que ça m'est traversé l'esprit de me dire, peut-être qu'il ne correspondait pas exactement au modèle de l'artiste. Mmh. Tu es un homme noir. Enfin, tu vois, je t'avoue que ça m'est passé par la tête.
Non, moi, je n'aurais pas lu jusque-là.
Ouais.
Ah ouais?
Non. Je crois que j'y ai travaillé. J'ai travaillé à rester dans l'ombre.
Ouais, tu préfères ça?
Bah, il faut dire que déjà, n'ayant jamais fait de la scène,
oui, on t'a pas vu.
Voilà. Donc j'étais très peu visible. Mmh. Et en plus de ça, je fais de la musique instrumentale. En général, les instrumentistes, on les voit pas. Mmh. Donc, non, ça ne me paraît pas bizarre du tout.
Oui, mais à une époque où désormais il y a, autant de lumière qui est mise sur le compositeur, beatmaker, producteur, oui, que sur le frontman, l'artiste,
oui,
qui va chanter ou interpréter les morceaux. Si tu refaisais cette carrière aujourd'hui,
oui, c'est très différent.
Je pense qu'on parlerait beaucoup plus.
Et d'ailleurs, même si tous les problèmes ne sont pas réglés, le fait d'être noir, c'est plus exactement non plus les mêmes,
oui,
les mêmes barrières que ça a pu l'être dans les années 70.
Non, et puis surtout pour le type de musique que je faisais, non, c'était au contraire, c'était plutôt. Ce qui posait problème, c'est justement le Dark Side Angels,
oui,
qui, au moment où Chris Blackwell l'a entendu, m'a dit, Wally,
qu'est-ce qui se passe?
C'est quoi ton truc, là? Comment veux-tu qu'on fasse la promotion de ça, tu vois?
Et en fait, tu sais, quand je parle de ça, c'est pas forcément la reconnaissance des pairs, etc. C'est juste qu'ensuite, quand il faut un peu être légitimé par les institutions, etc., c'est là où, en fait, vous commencez à avoir des barrières un peu absurdes,
oui,
qui peuvent naître à un moment.
Oui, mais moi, j'ai pas du tout souffert, oui, de ça. Bien au contraire, ouais, surtout avec le bicentenaire de la Révolution française, puisque j'ai travaillé avec Jean-Paul Gaud, donc on va faire plus que confiance. J'étais décoré par la République. J'ai quelques machins, des arts et lettres et tout.
Et
ça.
Écoute,
chevalier des arts et des lettres.
Ouais, oui.
Ah, bravo.
Réjouissons-nous alors.
Tout va bien.
L'homme de l'ombre quand même. Wally Badarou.
Bon, les amis, je crois qu'on va s'arrêter là. On a terminé avec les recommandations. Wally, c'était génial. Merci beaucoup. C'était absolument passionnant.
C'était vraiment très très cool.
On espère que t'as passé un bon moment aussi.
Ouais, absolument.
Bon, tant mieux. Absolument. Est-ce que on avait dit, t'avais 2 heures, t'as même eu 2h30 quasiment,
ouais, ouais,
pour réfléchir à la recommandation. Est-ce que c'est ce que t'as envie de recommander à nos auditeurs, à nos spectateurs, un morceau de musique
et auditrices
que t'as envie de leur faire découvrir?
Bien sûr,
bien sûr, bien sûr. On peut commencer si tu veux qu'on te laisse encore un peu de temps.
Non.
Tu sais,
il est là.
Allez, vas-y.
Une chanson, un morceau de Miles Davis.
Okay.
Enfin, une interprétation de la chanson All of You. All of You.
All of You de Miles Davis. Alors,
et je recommande à quiconque le peut de tenter d'apprendre le phrasé de, par cœur, enfin, le phrasé de Miles Davis et de tenter de le chanter.
Sur
et de se rendre
morceau
compte à quel point c'est extraordinaire quand on y arrive.
C'est avec John Coltrane, c'est ça?
Oui.
Garland, etc.
Oui, Garland et tout ça. Ouais. Ouais.
Beau casting déjà, je pense que ça va être pas mal. Trop bien. Ça, c'est ma cam. C'est purement ma cam. Rien que juste le son. Rien que le son.
Et tu vois, quand j'ai envie de me machin, je le chante à tue-tête. Ouais. En même temps que moi. C'est, à chaque fois, c'est waouh. Le feeling. Le tout dans le feeling, quoi.
Daz.
Voilà. Ça
merci Wally pour c'est trop court.
De Miles Davis, mais non, je vais pas mettre du Miles Davis. Je vais profiter du fait qu'il y a un documentaire sur Arte qui est sorti sur DJ Mehdi.
Oui, bien sûr, qu'on encourage tout le monde à aller voir.
Excellent. Oui. Vraiment, aussi bien pour montrer comment ce mec-là est un rassembleur entre l'électro, la French Touch qu'il a quasiment contribué à créer, et le hip-hop français dans sa plus pure forme, c'est-à-dire un hip-hop qui singe pas l'Amérique et qui fait des trucs de français, avec évidemment la mafia Kinfry et tout ça. Et on va s'écouter un morceau qui est encore dans sa partie hip-hop, mais au moment où vraiment, après le 113, il commence à partir sur du pur électro, c'est La Rue Cause de Carlito. Okay. Orly représente, bien sûr, 9-4, on est là. Que moi, je considère comme un morceau aussi fort que Les Princes de la Ville, parce que tout le monde parle des Princes de la Ville ou de Tonton du Bled, et je trouve que La Rue Cause est incroyable aussi.
Prod de DJ Mehdi, donc.
Prod de DJ Mehdi.
Carlito, La Rue Cause.
J'suis en état de choc, les années me stop, j'passe ma route. Doute de ton pouvoir, tu donnes pouvoir à tes doutes. Ta liberté au parloir, tu seras toujours concerné. Quand tu penses à ton futur, tu n'y penses pas qu'à moitié. Depuis maintenant toujours, je ris, j'envie les rois. J'ai toujours vu les riches, toujours plus riches que moi. On m'avait promis au bronze, mais on veut briller comme l'or. Le meilleur dans ce que tu fais jusqu'à la fin de ta vie. C'est des trésors de souffrance, la réussite est d'esprit. Si t'as grandi dans la zone, tu sais faire de l'argent bêtement. Mention bêtement, apprends à agir sûrement. Le sens du partage, ne jamais lâcher la tête à faire.
Ouais, tu sens même dans le traitement du sample, il y a un truc commun avec Prince de la Ville.
Ouais, les filtres et tout.
Ouais, c'est stylé.
C'est très très cool.
C'est très très bien. Super.
Et toi alors?
Merci Daz. Et ben j'hésite entre plus, il y a plusieurs trucs. En fait, j'ai tout ce que j'ai écouté cet été, tu vois, c'est forcément que j'ai de côté, j'ai pas encore écoulé les trucs cool. Je sais pas, j'hésitais entre du Imagination parce qu'on parle rarement d'Imagination et c'est trop bien. Je pensais à So Good So Right parce que c'est trop connu, Illusion.
Bah oui.
So Good So Right qui est un excellent morceau mais qui met du temps en plus, tu vois, donc faudrait choisir exactement mais il est trop bien, mais je vais prendre autre chose, un truc plus moderne entre guillemets. Tu vois, histoire. Parce que là, on écoutait que des trucs un peu anciens. Donc, je vais prendre un morceau de AJ Cook, qui est l'un des papas de l'hyperpop, avec son label PC Music, qui est grand collaborateur de Charlie XCX, qui vient enfin de péter vraiment, là, avec son dernier album. Et bref, il a sorti un triple album, il y a plein de morceaux dessus, et qui sont dans plein de styles différents, et il y a un morceau qui s'appelle Serenade, et qui est juste un joli morceau, en fait. Il y a un traitement des guitares que je trouve assez original et assez joli. Et je trouve qu'il a un petit truc ce morceau, voilà, Serenade de AJ Cook.
AJ Cook.
C'est là où on voit, je disais, papa de l'hyperpop. Alors là, c'est très doux, etc. Mais il y a ce côté glitché, à la fois des mélodies très faciles, très catchy, et puis un truc bizarre qui se passe, etc. Et ça parcourt un peu tout l'album. C'est assez cool. C'est voilà.
Très chouette.
Eh ben
voilà, voilà qui clôture ce.
Mais oui, ce très long épisode, mais franchement, il était bien.
Il était très cool.
C'était intéressant. Dites-nous dans les commentaires, laissez des étoiles sur si vous écoutez un podcast, si c'est sur YouTube, venez nous laisser un petit commentaire, dire que Wally est génial, que c'est trop intéressant. Et puis on remercie, donc on remercie Wally.
Bien sûr.
On remercie évidemment la team La Bouclette pour la technique, Iris, Sam, Flav ce soir.
Bien sûr, les bestes.
François, bien évidemment, pour le montage. Thoman aussi, évidemment, qui permet de faire cette émission. Est-ce que tu achètes parfois du matériel chez Thoman, Wally? C'était déjà arrivé.
Je n'achète que chez Thoman.
Voilà, c'est ça qu'on veut.
Il n'a pas
Merci
été briefé.
Wally.
Il n'a pas été briefé.
Non,
c'est
vrai,
incroyable.
On ne jamais. En fait. Et puis, on se retrouve, nous, dans 15 jours. Nouvelle invitée, nouveau sujet. À chaque fois, c'est passionnant. Je le dis, mais c'est vrai en même temps.
Ben oui,
c'est à chaque fois passionnant.
Ben oui, c'est à chaque fois passionnant.
Et on se retrouve
dans 15 jours. Éclectique. Ciao.